pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée cette semaine au Grand Prix d'Italie qui avait lieu à Monza. Et non, il n'y a pas eu de rouge. Enfin, si, il y a eu du rouge, mais pas autant qu'on aurait pu croire. Dino, es-tu content ?
Oui, oui, bonjour.
Il y avait une Ferrari sur le podium, c'était bien ?
Ouais Elle était juste deux places trop bas, mais c'est pas grave.
Mais peut-être que Perez sera un futur pilote Ferrari.
Ouais. Quand je vois ce qu'il a fait ce week-end, en même temps, je me dis, ouais, j'aimerais bien. Puis en même temps, je me dis, merde, ça sera la guerre.
Dino.
Et donc, chez Gilles, nous ne sommes pas seuls.
Et non, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés donc d'un guest qui porte un nom que l'on a célébré, vous savez.
Hein. Bonjour.
Puisque ce soir, nous accueillons Jackie Ratzenberger.
Bonjour à tous.
Bonjour à toi.
Moi, je trouve que Ferrari a justement, pour ce Grand Prix, a bien remonté après le désastre qui s'est passé à Spa. Ils ont quand même s'il fait 3, Fernando, il prend 15 points ou quelque chose comme ça sur ce qu'il avait
perdu. Oui, mais c'est pas suffisant. Ah.
C'est jamais suffisant pour des tifosis, tu sais bien.
Oui. Bon, quand même, c'est je pense qu'il a, il devait bien être content d'avoir pris tous ses points. Ils sont loin derrière maintenant. Hein.
Alors, messieurs, comme d'habitude, je pose la question traditionnelle. Qu'avez-vous pensé, de façon générale, de ce Grand Prix ?
Ah ben, moi, j'ai trouvé...
J'ai pas aimé les 15 derniers tours.
Moi, j'ai trouvé que le Grand Prix était très joli à voir. La réalisation, pour une fois, était très bonne. Moi, j'ai trouvé... On n'a pas loupé grand-chose, même si on n'a pas vu beaucoup Hamilton en tête. Je trouvais que c'était très bien, finalement, que de voir les actions en piste plutôt que de voir que le premier se promenait tout seul, quoi.
Justement, on a vu beaucoup de voitures, c'est qu'elles étaient souvent en groupe avec 3, 4, 5 voitures ensemble.
Ouais, puis quand on arrivait dans la ligne droite des stands, ça, quand il y avait 4 voitures qui arrivaient à se doubler, ça, enfin, qui étaient vraiment collées dans les aspirations de chacun et de chacune, c'était vraiment agréable à voir. On se disait, ça va doubler, ça va être intéressant. Ouais, c'était... Moi, j'ai trouvé un bon Grand Prix, ouais.
Dino, non.
Non, moi, le Grand Prix, c'était un Grand Prix reposant, je dirais. Voilà, il y avait un peu comme c'était un peu plus calme que la semaine dernière.
Oui, quand même.
Même si, comme la semaine dernière, il y avait de l'action, il y a eu des remontées, il y a eu des beaux dépassements et compagnie. Voilà, mais il y a eu des polémiques. Mais, mais non, sinon, je trouve que c'était un Grand Prix très agréable. Tout aussi agréable que l'an dernier, quoi. Voilà, c'était.
Très bien. Alors, messieurs, souvenez-vous, ce dimanche, nous étions le 9 septembre. Ça fait 9-9. Ouais. Mais pas 9-9. Attention, autre chose, 9-9.
Ni nouf-nouf.
Et à part cette magnifique course de F1, qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer un 9 septembre ? Eh bien, vous allez le savoir maintenant.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Alors, messieurs, je vous rappelle la règle de l'éphéméride inutile, un chiffre en rapport avec un événement qui a eu lieu le même jour que le Grand Prix. Et cette semaine, tu remarqueras, en ce moment, j'alterne les gros chiffres et les petits chiffres. Hein, donc, ouais. La semaine dernière, c'était un gros chiffre. Là, c'est un relativement petit chiffre, puisque le chiffre de la semaine, c'est le 13.
Bon.
Et c'était le 13e Grand Prix.
C'est vrai.
Mais ça n'a aucun rapport avec la F1, j'imagine.
Ça n'a jamais de rapport avec la F1.
C'est une durée ?
Non.
Est-ce qu'il y a une unité derrière ?
Non.
C'est 13 choses ?
Oui.
C'est ancien ?
C'est assez ancien.
C'est dans le... Enfin, c'est au 20e siècle ou 21e siècle, disons dans
Non,
le...
c'est plus vieux.
C'est plus vieux.
C'est pas l'album 13 ?
Non.
Ah, parce que là, c'est... Non,
ça...
Non.
Ça aurait été très con comme
film. Surtout si c'est avant le 20e siècle.
C'est lié à un événement historique ?
Bah oui, c'est toujours un événement historique. Tout est événement historique.
Oui, non mais tu comprends.
C'est lié quand même à un événement historique important.
Français ?
Non.
Américain ?
Oui.
La déclaration d'indépendance. C'est le nombre de mots qu'il y a dans...
Non, il n'y a pas 13 mots, mais c'est très lié à ça, à la déclaration d'indépendance. Fais gaffe, Jackie, parce que là...
Je
il brûle pas, là, il carbonise. Hein.
Le truc, c'est je crois que j'ai trouvé.
Ah, je pense que tu as trouvé, mais pourquoi ?
Bah, 13, c'est les 13 États qui niaient la déclaration d'indépendance.
Tout à fait.
Maintenant.
Mais c'est le 4 juillet. Pourquoi le 9 septembre alors que le 4 juillet ?
Oui. Donc, c'est la ratification, c'est...
Non.
L'écriture?
Non.
C'est... Ah ah. Donc, on est bien d'accord, c'est lié directement à la déclaration d'indépendance.
Oui, et à l'indépendance.
À l'indépendance. Donc, c'est les 13 colonies...
D'ailleurs, c'est le 9 septembre 1776. Donc, tu vois, c'est extrêmement lié.
Ouais. C'est le drapeau, non? C'est pas lié aux 13 bandes du drapeau?
Non.
Ah, je m'aide un peu. Est-ce que ça va pas lié avec le nom du pays?
Oui.
Ah.
Ouais, mais il sait, il triche.
Oui, mais t'es tellement bon que, à limite, hein.
C'est les États-Unis d'Amérique naissaient avant.
Exactement. Donc, enfin, ils existaient puisque, comme on l'a dit, la déclaration, elle est du 4. Mais en effet, le 9 septembre 1776, c'est le jour. C'est le jour où, pour la première fois, ils utilisent le nom de United States of America. C'est un terme d'ailleurs qui était très récent, hein. C'est pas un truc qui existait depuis longtemps, puisque le premier document où on a ces termes, hein, d'États-Unis d'Amérique, qui existe, il date que d'avril 1776.
Ah ouais.
En juin 1776, Thomas Jefferson, il inclut la phrase, donc United States of America, en lettres capitales, en première ligne, donc de la déclaration d'indépendance. Mais il faut savoir que dans la version finale, hein, celle que petit américain doit connaître son par cœur, hein, parce que c'est quand même un des textes, c'est peut-être même le texte le plus important de leur histoire.
Bah oui, hein, quand tu vois comment ils sont attachés à leurs amendements. Et
exactement. Il faut savoir que, alors, c'est écrit en lettres.
Il n'a pas changé en plus depuis cette époque-là. Hein.
Tout à fait. Hein. Ah, tout à fait. Donc,
imagine le mec, le mec qui veut y changer, il se fait canarder la gueule.
Ah, oui.
En France, on est à la 5e constitution. Ouais. C'est pas plus.
Oui, en plus.
Bon, faut quand même se dire, c'est que peut-être que nous on a pas mal changé, mais bon, ça sera peut-être aussi un petit peu intéressant que eux ils changent
certains
points,
trucs. Oui.
Parce qu'ils sont quand même encore aujourd'hui en train de se dire, c'est dans la Constitution, on a le droit de porter une arme. Oui, enfin à l'époque il y avait des coyotes et compagnie, il y avait pas vraiment de police, il y avait pas vraiment d'État. Bon là maintenant vous êtes quand même en État, il y a de la police. Bon, il y a peut-être pas forcément besoin d'un gun à chaque fois, quoi.
Parce que donc sur le texte officiel, en fait, alors ça joue notamment sur la taille des caractères, c'est-à-dire que la première phrase, c'est « The Unanimous Declaration », donc la déclaration unanime en majuscule, « of the 13 United », et ça, c'est marqué en tout petit, « States of America ». Et « States of America », par contre, c'est en grand. Alors, je sais pas, est-ce que tu sais, ils avaient un doute sur le nombre des colonies qu'elle est signée, ils se sont dit « On va le mettre en tout petit, comme ça, si c'est pas 13, on pourra en loose D, machin ». C'est marqué en tout petit. Et donc, on a « United States of America », mais pas en un seul terme, tu veux.
Ouais.
Et donc, il a fallu attendre 9 septembre 1776, donc pas si longtemps finalement, pour que les 13 colonies, plus exactement le Congrès continental, hein, qui est l'assemblée, c'est l'ancêtre de l'assemblée actuelle aux États-Unis, décident en fait d'utiliser le terme d'États-Unis d'Amérique pour désigner leur pays. Ça a été officialisé au bout d'un an, hein, le 15 novembre 1777, et vraiment...
Cette date-là que j'avais retenue, moi.
et vraiment d'usage, il faut encore attendre un an où en fait le terme apparaît dans tout ce qui est bon du trésor. Donc jusqu'alors, il y avait encore certains endroits où ça pouvait encore être marqué les 13 colonies ou seulement le nom des colonies. Et alors remarque, alors en français bien évidemment, les États-Unis d'Amérique, c'est du pluriel. Ouais. Les États-Unis d'Amérique. Hein. Donc en bon anglais, normalement les États-Unis d'Amérique devraient être du pluriel.
Pluriel.
Hein. Ben, il faut savoir que depuis en fait la fin de la guerre de sécession, ce qui n'est sans doute pas anodin, en anglais, le terme est utilisé au singulier.
Quel terme? United States.
United States.
D'accord, ok.
Donc, on est d'accord, hein, en bon anglais.
Donc ils disent le États-Unis d'Amérique.
Ouais, ou the United States is. Alors que ça devrait être United States are, bien évidemment, c'est pluriel. Okay. Et c'est jusqu'en 1865, en fait, trouver encore cette forme au pluriel. Et apparemment, c'est devenu commun, depuis la fin de la guerre de sécession, d'utiliser ce singulier, qui est devenu, en fait, apparemment un standard. Donc voilà, ça fait quand même 2 semaines où tu es très très bon. Bon là,
franchement, au pif, quoi.
Jackie a eu de l'aide, mais quand même, tu t'es quand même rapproché d'un coup super bon. Et alors, en F1, 9 septembre, il s'est passé des choses. Alors, côté Grand Prix, vous en doutez, il n'y a que du Grand Prix d'Italie. Hein, sur vraiment les deux premières semaines de septembre, il y a 99% des Grands Prix, ça a été des Grands Prix d'Italie. Et 99% des Grands Prix d'Italie ont lieu sur ces dates-là, c'est vraiment classique, historique. Et c'est une journée de champion du monde, puisqu'en 1973, eh bien, c'est Jackie Stewart qui gagnait son 3e titre.
Ah ouais.
Alors qu'il allait bientôt partir à l'Arc Plus, hein, puisqu'il part à la retraite justement juste à la fin de saison. 3e titre. En 79 aussi, cette fois-ci, là ça va te faire plaisir. Enfin, C'est Jody Scheckter. Ouais, voilà. Dernier pilote avant très longtemps, ça on le sait.
Il a été sacré à Monza, Jody Scheckter.
Oui, et Ferrari est devenu champion du monde en 79 à Monza.
Oh la fiesta que ça devait être. Le mec, pour que ce titre à Monza, faut vraiment qu'il domine. Même Vettel l'an dernier, il n'y est pas arrivé. Oui.
Non, il y avait plus de Grand Prix. Il y a plus de...
Oui, voilà, c'est ce qu'on était... maintenant aujourd'hui, pour que les mecs ils soient titrés à Monza, il faut vraiment y mettre de la volonté.
À cette époque-là, c'était que des Grands Prix en Europe, principalement. Donc...
Bah, c'était souvent la fin de saison.
Oui, l'Italie était déjà bien avancée, puisque par exemple en 79, l'Italie c'est le 13e Grand Prix sur 15. Il en reste plus deux après.
Ça semble pas illogique qu'il puisse être titré à Monza.
Donc voilà, bah c'est tout pour cette éphéméride, parce que Dino a été très très, je dois le reconnaître, il a été très très bon cette semaine.
Ouais, mais là, enfin là, quand tu sais que c'est les États-Unis, que c'est lié à un événement historique.
Et qu'il y a 13, oui, voilà.
Voilà, enfin voilà, moi j'ai quand même, on a quand même fait les études d'histoire, donc voilà, c'est quand même typiquement le genre d'info.
Tu as posé les bonnes questions.
Oui, c'est vrai. Hein. Non, c'est vrai, je suis génial en fait, oui, je dois le dire.
Eh bien, dans ce cas, ne traînons pas, mon cher Dino, et c'est l'heure de Jackie. Oui. C'est le quart d'heure de Jackie.
C'est le moment où tu fermes ta gueule.
Tout à fait.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Alors Jackie, tu le sais, c'est ton quart d'heure de gloire, c'est ce petit quart d'heure où effectivement Shinji va fermer sa gueule.
Tu l'as déjà dit.
Et où moi je vais monopoliser la parole pour te poser tout un tas de questions, à commencer par le pour Papou.
Pour.
Correct. Question suivante. Donc Jackie, est-ce que tu es prêt?
Oui.
Alors je rappelle le concept, je vais te poser 10 questions en te demandant à chaque fois si tu es pour ou pas pour. À la fin, tu pourras revenir sur 3 thèmes, voilà, en fonction de tes personnels et de tes affinités avec le monde de la Formule 1.
D'accord.
Alors attention, pour ou pas pour le retour de Robert Kubica en Formule 1.
Pas pour.
Pour ou pas pour le 300e Grand Prix de Michael Schumacher.
Pour.
Pour ou pas pour Lewis Hamilton chez Mercedes en 2013.
Pas pour.
Pour ou pas pour que Ferrari renonce à la Formule 1.
Oh, pas pour.
Pour ou pas pour un V6 Turbo Cosworth en 2014.
Pour.
Pour ou pas pour que Pirelli reste au-delà de 2013.
Pour.
Pour ou pas pour Magny-Cours pour accueillir le Grand Prix de France.
Pas pour.
Pour ou pas pour la réduction des coûts de 30% d'ici 2015.
Pour.
Pour ou pas pour la tarte au citron meringué.
Pas pour.
C'est pareil que c'est encore quelqu'un qui aime pas le
goût. C'est un nouveau circuit.
Il est délicieux ce circuit, moi j'adore. Et enfin, pour ou pas pour la professionnalisation des commissaires sportifs.
Pas pour.
Donc voilà, nous avons fait le tour. J'ai pas pris de notes parce que ça a peut-être mon côté, mais...
Ouais, moi j'ai...
Tu peux revenir sur 3 thèmes de ton choix.
Ouais, je vais faire comme tu faisais toi, je vais faire le top 3. Ça se trouve, il y en a plusieurs que j'ai envie de parler. Toutes les questions du début, elles étaient toutes intéressantes, il y avait toujours quelque chose à dire. Ça rappellera en fait le top 3 qui faisait 6 ou 7 l'année dernière. Alors, Robert Kubica, je suis pas pour en fait. Je trouve que c'est un bon pilote, mais je trouve ça dommage en fait que aujourd'hui, donc l'année dernière, enfin, il a eu un accident, il a été très, on va dire, abîmé. On ne sait pas de combien, mais il est très abîmé. Il y a eu de la communication sur le fait qu'il était qu'il allait être en parfait état de fonctionnement. En 3 mois, et au final, on n'a pas vu une seule image, une seule vidéo de lui qui rentre dans une voiture ou quelque chose comme ça. Donc, je crains que aujourd'hui, c'est pas que je suis contre le fait qu'il revienne en F1, mais je crains qu'il ne puisse pas revenir en F1 parce que ça demande quand même des aptitudes, de l'appréhension au niveau des doigts pour toucher les petits boutons et tout ça. Je pense qu'il a eu quand même très très chaud lors de ce rallye en Italie. Je pense que ça sera difficile pour lui.
Il faut savoir quand même que ce week-end, il a repris la compétition lors d'un petit rallye.
Qu'il a gagné.
Il a gagné. Il faut se calmer. C'est un petit rallye local avec 4 étapes. Voilà. Et au-delà de la victoire, il semblerait qu'il est quand même ressorti pas mal affaibli aussi de ça. Donc voilà,
il y a encore de la marge. Il y a 15 jours, il y avait le rallye, donc je ne sais plus lequel, c'était en Allemagne, où il avait soi-disant notamment travaillé pour Ford sur...
À Reims, je crois, il aurait fait des tests pour Ford à Reims avec les pilotes titulaires Ford.
Voilà, et là, sur ce rallye dans l'Italie, il n'était pas avec une Ford, toi, par exemple.
Non, il était avec une Subaru.
Voilà, donc il y a des choses, il y a une communication qui n'est pas vraiment cohérente.
C'est-à-dire qu'il a fait un test avec une Ford WRC, là c'est un petit rallye régional, il ne peut pas engager une WRC.
C'est
sa collection privée.
Oui, bah, d'accord. Ce qu'il avait, elle avait l'air d'être quand même assez affûtée. Hein. Et encore une fois, c'était fumé à mort, on ne pouvait même pas voir si c'était lui qui conduisait.
Il y a une photo, il y a des photos de lui où on voit qu'il a un gros pansement autour du bras. Donc voilà.
Ah, j'ai pas vu cette photo.
Mais encore une fois, c'est toujours la. Voilà, moi je sais pas, je reste toujours dubitatif au fait que le retour de Kubica, ça devrait faire des vidéos, il va y avoir des interviews et compagnie, il y a toujours rien. C'est-à-dire qu'il fait des performances, mais concrètement, on le voit pas lui, donc c'est toujours un peu inquiétant.
Et puis même Fernando Alonso, donc dans le dernier magazine F1 Racing, là, il en a parlé, il disait voilà, ouais. D'abord qu'il se reconstruise lui, avant de penser à quoi que ce soit d'autre. Et je crois qu'il n'est pas encore prêt à se reconstruire complètement, il y a quand même du temps à passer. Il a perdu 5 litres de sang, quasiment il restait plus que la peau pour tenir son bras, enfin faut être raisonnable quoi, il y a un moment tu sais quoi.
Ouais. Après y a, c'est quand même du progrès quoi, le fait de ne serait-ce que de voir une photo de lui, ça fait si longtemps qu'on n'en a pas eu une. Voilà.
Alors je sais plus quels étaient les autres sujets que tu avais évoqués.
Donc il y avait Schumacher pour le 300e Grand Prix, il y avait le Motor Cosworth Turbo en 2014, il y avait la tarte au citron meringuée.
Non, celle-là je te l'ai laissé.
Ah non, celle-là, non, elle est bien, sincèrement, la tarte au citron, c'est super bon, ce petit côté fraîcheur, moi, je suis un fan, voilà, il y a le Hungaroring et la tarte au citron meringuée. Il y avait Pirelli qui reste au-delà de 2013, Ferrari qui renonce à la Formule 1, Lewis Hamilton chez Mercedes en 2013, Manicourt pour accueillir le Grand Prix de France, la réduction des coûts de 30% d'ici 2015 et la professionnalisation des commissaires sportifs.
Alors, la professionnalisation, je pense qu'on va en parler au cours du Grand Prix. Là, je pense que ce qui s'est passé avec ce qui s'est passé cette année et l'année. Enfin, moi, je mets ça toujours en rapport avec l'année dernière où au même endroit, on a deux décisions qui sont différentes. Alors peut-être qu'il y a eu aussi dans la balance le fait que à Spa, il y a eu un gros crash et qui a impliqué pas mal de monde, surtout dans le haut de la grille.
C'est pas ça qui a pesé en fait, ça a en partie pesé, mais ce qui a pesé et ce qu'a expliqué notamment Emmanuel Epiro, c'est que il y a eu à la demande des pilotes et notamment un éclaircissement après le cas de Bahreïn, qui fait que une manœuvre qui laissait un certain niveau de tolérance l'an dernier, aujourd'hui ne laisse plus de la moindre place à la tolérance. C'est toujours pareil, c'est qu'il faut regarder comment le règlement évolue entre les deux incidents, même s'ils paraissent similaires. Bah, entre temps, il y a quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts et le règlement n'est plus tout à fait le même.
Ouais, enfin,
l'interprétation n'est plus la même.
Grosjean, il prend un grand prix de suspension que je trouve juste hein, comme décision. Vettel fait la même chose. Il fait la même chose, hein, exactement la même chose sur Alonso. Il prend un bras trop. Je crois que les cohérences ne sont pas tout à fait les mêmes. Quoi. À Spa, il y avait un mur. Donc, Hamilton s'est crashé. Là, il aurait pu avoir la même chose. Il aurait pu tout à fait obliquer vers la droite, Fernando, et toucher à 300 la voiture de Vettel. Ça aurait été pareil.
C'est ça le truc, c'est que quand on regarde les justifications qui ont été données pour l'accident de Grosjean pour justifier sa sanction, on pourrait très bien l'appliquer à cette course, quoi. C'est un accident qui implique un prétendant au titre, que c'était évitable, que ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Voilà, on est typiquement dans le problème
de cette... C'est tombé très rapidement.
Enfin, moi, c'était évident qu'il allait prendre quelque chose. En plus, il est double champion du monde. C'est pas comme si il sortait du GPL, quoi.
Non, parce que depuis le début de la saison, les pénalités, elles ont plutôt tendance à tomber après les courses, ils prennent leur temps, et là, ça doit peut-être être une des plus rapides qu'on ait eues toute la saison.
C'est Monza,
hein.
Ouais, c'est...
Circuit rapide, pénalité rapide.
Franchement, sur le coup, on pouvait se dire, non, les télémétries, ils les ont regardées vachement rapidement, parce que à peine on a eu l'annonce d'une enquête, allez hop, drive. Ah.
Mais, en fait, mais il faut aussi dire que ça a été quand même un peu long pour qu'ils annoncent l'enquête. Ça a dû 3-4 minutes. Ce qui est long en Italie, sachant que ça concerne un pilote Ferrari et qu'il y a un commissaire italien dans le lot. Donc voilà, c'est un peu long.
Oui, alors ça, c'est vrai que ça, c'est, moi, j'ai trouvé ça. Et puis, du côté de chez Red Bull, ils disent, bah non, c'était comme l'année dernière. Non, 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 allez, les gars. C'était déjà un miracle que Vettel, parce que, alors, je l'aurais sanctionné également. Hein, parce que je trouve que c'est dommage de, que des top pilotes. Alors, c'est vrai que ça donne de la, comment, c'est ce qu'on aime voir, des bagarres, des choses comme ça. Mais quand dans la bagarre, il y en a un qui sort et que finalement, ben, comme ce qui s'est passé à Spa la semaine dernière. La semaine dernière, il y avait une belle grille en qualification. C'est-à-dire que ça pouvait donner un beau Grand Prix. Au bout de 100 mètres, il n'y avait plus de Button qui pouvait jouer la victoire. Donc, ben, il a gagné. Ah oui, forcément. Donc, quand ça abîme les autres voitures et qu'il n'y a plus de compétiteurs, la course, elle perd quand même son intérêt, même si ça fait une belle image pour montrer sur une photo sur l'équipe ou sur Autosport. Enfin, voilà, ça fait une belle une, mais à regarder. En fait.
Même là, ça a un impact sur les deux, quoi. Enfin... Là, on peut quand même constater qu'on a donc une pénalité pour Vettel, au moins que je pense mériter. Mais derrière, on a encore une panne d'alternateur. Est-ce que, par exemple, c'était pas non plus lié? Parce qu'on se souvient déjà que la précédente panne d'alternateur, c'était déjà dû à un moment donné où il y avait eu un ralentissement très net de la voiture. Et là, bon, bah, lors d'un drive-through, peut-être que ça a surchauffé ou un truc dans le genre. Enfin, je sais pas. Et puis, il y a aussi des conséquences pour Alonso, quoi. Enfin, il finit la course avec l'obligation de Ferrari qui lui dit à la radio, évite les vibreurs, conduit prudemment, il se prend 15 secondes sur les 5 ou 6 derniers tours. Mmh. Puis du coup, Massa aussi derrière est obligé de tenir parce qu'il ne faut pas que Massa dépasse Alonso. Donc,
Felipe se faire Sardinio.
Oui, ça, il l'a bien. Ouais, ouais. Le message était différent cette année. C'est... Oui, à un moment donné, clair, on a dit à Massa, je ne sais plus ce qu'on lui a dit.
Tu as vu, Alonso est à moins d'une seconde. Il va pouvoir utiliser son DRS.
Genre, garde-toi.
Non, mais c'est normal, il est en tête du championnat, il l'a bien en tête pour le coup. C'est normal que... C'est normal qu'il s'équipe. Ouais. Et moi, je pense même d'ailleurs que Felipe, depuis quelque temps, a réussi mieux ses grands prix. Je me demande s'il n'aurait pas signé.
C'est peut-être, on ne sait jamais, hein, ouais. Ça peut...
Moi, j'ai eu peur, en tout cas.
Sinon, Jackie, tu avais une autre actu.
Il
y avait quoi? Il y avait Hamilton chez Mercedes.
Hamilton chez Mercedes, ben... Je pense que c'est une mauvaise idée, mais alors, vous avez vu la tête qu'il a fait une fois qu'il avait la victoire. C'est tout juste, il est allé voir ses mécaniciens. Il faisait vraiment une tête pas possible. Il est vraiment pas bien là où il est. Hein.
Bah là, on sent bien qu'il y a eu une grosse explication de texte oui. La semaine dernière, entre les déclarations de Button, où c'est vrai que ça a été glacial tout le week-end, dans ce qu'on a pu lire. Moi, ce que j'étais absolument effaré, c'est par le communiqué de McLaren de samedi soir, où les mecs, ils passent leur temps à te parler du premier virage, à te dire « Non, non, mais il n'y a jamais eu d'accident, ça fait des années qu'il n'y a plus d'accident au premier virage, entre les mecs aux avant-postes et compagnie. » T'as juste envie de dire « Normalement, vous êtes dans la situation idéale, puisque vous êtes coéquipier en première ligne, donc c'est la sécurité quoi. » Eh ben non, Button il a beaucoup insisté dessus. On a vraiment l'impression que dans la semaine il y a eu quelque chose, genre Lewis Hamilton qui a dit si c'est comme ça je me barre et vous allez voir la fin de saison ça sera que pour ma gueule. Et donc du coup chez McLaren ils ont eu un peu les miquettes, et notamment Button peut-être a eu un peu les miquettes de dire putain qu'est-ce qu'il va me faire au départ. Voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un truc tendu. Et puis, enfin voilà, c'est vrai qu'il y a le langage corporel, les visages. Mmh.
Il va se passer, je pense.
Il est plus chez McLaren dans sa tête, non. Ce garçon-là, il est plus chez McLaren, en tout cas pour le moment.
J'ai l'impression qu'il va se passer la même chose que ce qui s'est passé en 2007 avec Fernando, où il était devenu persona non grata, et ça va être la même chose avec Hamilton et Button cette année. Je pense que ça va se finir comme ça. Mmh. Alors c'est dommage parce que c'est vraiment un animateur important de championnat.
Ça serait même terrible parce que ouais. Quand on connaît les liens d'Hamilton et de McLaren, on s'imagine pas que ça puisse en fait se terminer entre guillemets de cette façon-là.
Non. Mais d'un autre côté, McLaren a besoin d'argent pour l'année prochaine parce qu'ils vont payer pour la première fois leur moteur Mercedes, donc ils peuvent pas augmenter tellement Hamilton.
Ah, ils peuvent pas. Ils veulent pas. Ils veulent garder au même niveau.
C'est pour ça que c'est Perez qui va assumer chez McLaren l'année prochaine. Ah moi je vous le dis, l'année prochaine, on a... Bon, chez Ferrari, je crois que ça va rester comme ça, j'en ai bien peur. Et on a Pérez chez McLaren et Hamilton chez Mercedes.
Mmh. Alors, qui tu mets chez Sauber alors du coup?
Ah bah chez Sauber, moi j'aime bien Pic. Ah non, 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 Pic, non, je dis voyons. Jean-Louis ah, Montel oui, nous a révélé l'info.
Oui, il va chez Caterham dans un an, c'est vrai.
Il va, voilà.
Ouais, on s'en il y a deux places.
Voilà.
Bah, comme ça, il va pouvoir être devant Bloch. Hein. Là, c'est sûr. Hein.
Ah bah là, oui. Là, Non, mais bon, Kovalainen, par exemple, chez Sauber, ça peut bien le faire. Oui. Mais Kobayashi, hein, Kovalainen-Kobayashi peut être assez intéressant.
Bah, je sais pas, Kobayashi, il a fait une super première saison.
Il est vrai qu'il a une position plus fragile cette année.
Ouais, cette année. Hein.
Et concrétisement, enfin, il fait moins le coup d'éclat, mais il est quand même toujours très présent. Enfin, là, il est encore très bien qualifié. Voilà, c'est un peu le problème, c'est que c'est le contrat. C'est que Pérez, il est un peu moyen en qualif. Kobayashi est très bon en qualif. Par contre, en course, ça s'inverse.
Ah ouais, et puis là, ça
s'est bien. Et malheureusement, c'est sur la course que tu fais les résultats. Quoi, oui. Donc,
Et puis, bah, le moteur Cosworth, ça va être le dernier point. J'en ai fait que 4, je crois, ou 5.
C'est déjà trop, monsieur. Normalement, c'est 3.
Le Cosworth, je pense que c'est important qu'il y ait un moteur Cosworth sur, en V6. Alors, je sais pas s'ils auront les moyens de le faire, mais il y a déjà beaucoup de constructeurs. Il faut qu'il y ait un moteur, on va dire, pour les petites équipes. C'est important pour qu'ils puissent au moins se montrer. Et comme l'année prochaine, ça va être un... Enfin, pas l'année prochaine, en 2014, ça va être le premier moteur V6. Donc, il y aura une année où ils vont pas, a priori pas être gelé, c'est ce que vous disiez au dernier mag. Moi j'ai tendance à croire que ce sera vrai et que l'année d'après ce sera gelé, donc je pense que un V6 Cosworth, je pense que ça peut avoir du sens.
Et sinon, quelle est l'actu dont tu n'as rien eu à foutre ces dernières semaines?
Bah, j'en ai pas beaucoup parce que presque tout m'intéresse.
Bien, on sait qu'en plus ça a repris, donc
ouais, c'est vrai que on a attendu pas mal de temps Spa, hein. C'est vrai que c'était presque comme un mini break en fait, hein. C'était vraiment comme une mi-saison, vraiment c'était, c'était long, hein. Et puis
et la reprise elle est dure.
Et puis du coup tout de suite on a le Grand Prix d'Italie dans la foulée, c'était intéressant, c'était bien, on n'a pas eu longtemps à attendre. Puis là on va attendre 2 semaines pour le prochain, donc c'est dur. Donc non, je lis beaucoup de choses sur la F1. Toi là, je regarde sur le truc, qu'est-ce qui m'intéressait pas dans les derniers. Tu vois, je regarde Connor Daly, je vois un Américain en quête de F1. Bon ben voilà, il est en GP3, je crois que c'est ça. Ouais. Lotus aujourd'hui, je sais pas d'ailleurs s'ils auront toujours le sponsor l'année prochaine. Je trouve ça un petit peu facile de la part de Lotus d'avoir une écurie sans payer.
Alors normalement ils doivent l'avoir même pour facilement 3-4 ans.
Ouais. Oui, je crois que c'est 2015 ou 2016.
Je pense que si Jenny trouve un autre sponsor titre, ils vont pas gêner pour les enlever. Hein.
Ah bah oui, s'ils payent,
bah oui,
il n'y a pas de raison.
Là, ils ont juste
ont quand même un gros bénéfice d'image, parce que le voilà. C'est quand même pas rien.
Ah bah oui. C'est sûr que si tu t'appelles le Rexona Team l'année prochaine, c'est pas terrible.
Non, c'est pas terrible.
Vaut mieux avoir Rexona Lotus Team. Voilà, là
c'est bien.
Ça a de la gueule.
Ouais, parce que tu toucheras les droits TV, mais sinon tu les toucheras pas.
Oui, voilà.
Donc voilà. Voilà, sur les news que j'avais pas envie de voir, sur celles que j'ai envie de voir, bah, j'aimerais bien qu'ils reviennent un peu plus sur les.
Il anime tout seul. Moi, je trouve ça formidable. Oh. Là, on a un auditeur. C'est son quart d'heure de gloire. Il en profite.
Ouais.
Allez, hop, je passe une catégorie à une autre. Je m'en fous qu'on pose des questions.
En plus, tu remarqueras, c'est très propre. Donc, pour le montage, ça voilà. Va être bien.
Vas-y, Jackie, déroule.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'écoute vos émissions depuis 2 ans maintenant. Donc, maintenant, je connais un petit peu le déroulé de l'émission. C'est la question que tu vas me poser.
C'est pas faute de changer, quand même.
Tu vas me demander tout à l'heure si j'ai déjà un drive through, tu vois. J'ai déjà préparé. Et donc, ouais, dans les news, ce que j'aimerais bien voir, c'est les réductions de budget sur les F1. Moi, j'aimerais bien voir que ça réduise vraiment drastiquement sur les F1, quitte à avoir ce que une équipe, on leur donne, que la FIA leur donne 50 millions de dollars, et que les sponsors, que tout le marketing soit fait par la FIA, et que ce soit la FIA qui donne l'argent. Parce qu'on
peut pas faire les... c'est que j'entends, il dit qu'il est pour une réduction de 30% des coûts d'ici 2013. Mais 30% des coûts par rapport à quoi? Toutes les équipes vont devoir réduire leurs coûts de 30% parce que là, bon, HRT, Marussia, elles vont faire la gueule. Ferrari, Red Bull, ça reste quand même relativement raisonnable. Ou est-ce que c'est, voilà, c'est un plafond qui est par rapport à la meilleure équipe? Voilà,
moi, j'avais même une idée à l'époque, il y a 2 ans, quand Mosley en avait parlé, on était à 50 millions de dollars, je crois, au départ, et puis après à 100. Je m'étais dit, mais pourquoi pas, il y a des équipes qui voudront toujours dépenser de l'argent. Bon, Ferrari, McLaren, Red Bull, tout ça, ils veulent toujours dépenser plus que ce qui est prévu, que si on leur définit une limite, ça les gêne. Donc, ok, tu dis, voilà, tu veux dépenser 20 millions de plus, pas de problème. Tu prends 20 millions, mais sur les 20 millions, tu donnes la moitié aux petites équipes. Comme ça, ça fait progresser les petites équipes avec de l'argent qu'ils veulent. Et eux, ils ont 10 millions pour développer un.
Ouais, mais la F1, c'est pas communiste.
Non, tu sais, mais il y a un moment, faut que. Bah, là, cette année, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas qu'une équipe qui est en haut. Quand tu vois que entre la première, j'ai pas regardé le détail, mais entre le premier et le huitième, il y a 4 dixièmes, voilà, c'est beau.
Il y a facilement la moitié du peloton en une seconde, régulièrement.
Ça, c'est aussi parce que le règlement technique, il a pas bougé depuis 3 ans, en gros, sauf si on enlève les coûts des DRS et des diffuseurs soufflés. Mais globalement, le règlement technique est plutôt.
Ah bah, la marge de développement, et c'est largement à moindre.
Bon, voilà, ils ont tout développé, ils avaient beaucoup d'avance, par exemple Red Bull, mais l'avance, ils peuvent plus en attraper d'autres parce qu'il n'y a plus grand chose à gratter, quoi. Alors que les autres qui étaient en retard, eh ben, ils ont repris ce qu'ils avaient oublié de prendre dans la réglementation et ils se rattrapent. Donc au final, tu as à peu près les mêmes niveaux de performance, et puis après, tu as le côté pilote qui peut amener des dixièmes en plus, comme Fernando, clairement.
Mais après, si tu plafonnes les budgets, c'est pas non plus certain que les équipes fassent le même boulot. C'est-à-dire que tu auras toujours des équipes qui s'en sentiront mieux avec telle somme d'argent que d'autres, parce qu'elles auront peut-être l'intelligence, peut-être aussi le personnel pour. Tout en respectant le même, tout en ayant le même budget que les autres. Voilà, enfin, je sais pas, si on nous donne à chacun 100 euros pour faire les courses, il y en aura forcément un qui fera les courses plus intelligemment, parce que il aura peut-être regardé les meilleurs prix, il aura été plus rentable, quoi. Je pense que quoi qu'il arrive, même avec des budgets plafonds, il y aura toujours des dominations possibles, il y aura toujours des championnats qui sont serrés, mais il y aura toujours des dominations possibles.
Tu sais, il suffit de voir sur des formules monotypes, bon, c'est pas ce qu'on veut en F1, mais même sur des formules monotypes, tu as des équipes qui dominent plus que d'autres, rien qu'en GP2.
En IndyCar, les deux mêmes équipes depuis des années, pourtant ils ont changé de règlement, ils ont tout changé, même en
GP2, il y a souvent quand même un certain nombre d'équipes qu'on voit plus souvent en haut des podiums que d'autres, pourtant c'est les mêmes. Donc
avec une histoire d'exploitation aussi.
Et sinon, l'actu que tu n'aimerais pas lire dans les prochaines semaines?
À mort.
Oui. Sois plus spécifique.
Non, mais je voudrais pas voir. C'est pour ça que je suis vraiment mécontent de ce qu'a fait Vettel. Parce que j'adore le bonhomme. Je trouve qu'il est agréable à parler. Il a un charisme pas possible. C'est vraiment un joli pilote à voir. Et il est déterminé. Donc voilà, il a du talent. Et faire un truc comme ça pour vraiment blesser, enfin pas blesser, mais il aurait pu blesser quelqu'un. Ils conduisent comme si ils avaient oublié qu'il y avait eu des morts il y a 20 ans, quoi. Et ça, je trouve ça dommage, hein, parce que c'est vrai qu'ils sont plus cette génération. Personne, enfin, parmi ceux qui sont là, personne n'a vu, enfin, à part Schumacher, évidemment, personne n'a vu Senna en course, personne n'a participé à la course où Senna est mort. C'est aussi pour ça qu'il faut, garder de la raison pour éviter de faire ce genre de conneries. On a l'impression qu'ils sortent de GP2. Ça, c'est les trucs que font les GP2. C'est pas normal. Donc ouais, c'est ce qui est le pire, je pense.
Et c'est vrai que quand tu regardes en termes de lutte, les luttes les plus propres, aujourd'hui, ça reste celle entre Alonso, Raikkonen, Alonso, Schumacher, Schumacher, Raikkonen, Weber. Vraiment les vieux de la vieille, quoi. Voilà, aujourd'hui, on peut quand même dire qu'Alonso et Raikkonen sont dans la vieille génération. Et c'est vrai que à l'introduction de GP2, Vettel, il est de cette génération-là, même s'il n'a pas fait de GP2, mais il est quand même de la génération.
Button aussi a la réputation de quand même des plus propres.
Button aussi, voilà, donc c'est ce que dit Alonso, quoi, c'est le retour du respect entre pilotes, et c'est vrai qu'on constate quand même qu'il y a, entre une même génération de pilotes, il y a beaucoup de respect, mais on voit effectivement des Vettel ou des Hamilton, pour prendre les deux champions de cette génération-là, qui sont peut-être un peu moins respectueux, parce que c'est peut-être une nouvelle philosophie de la course, et c'est ce qu'on disait justement nous, on essayait de réfléchir sur ça dans la dernière émission, et apparemment les gens ont beaucoup aimé cette émission justement pour ça, c'est de se dire, il n'y a pas non plus... c'est pas la faute, elle n'est pas non plus que de Grosjean, ou la faute, elle n'est pas non plus que de Vettel. C'est une génération, c'est une réflexion d'ensemble qu'il faut mener sur la responsabilité des équipes, la responsabilité des formules de promotion et tout ça, qui nécessite peut-être qu'on s'y attarde.
Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est important parce que surtout quand cette génération de pilotes anciens va s'en aller, il va rester que les jeunes fous. Et est-ce que, à un moment, il faut gérer le championnat. Vettel, je pense qu'il était dégoûté en fait que d'être moins rapide qu'Alonso. Alors je sais pas si j'avais pas pensé le coup de l'alternateur en sortie de la chicane numéro 1 cette chicane elle est difficile à sortir. Souvent il passe la deuxième très très vite pour éviter qu'il y ait trop de survirages en sortie, et sans doute pour calmer un petit peu la température des pneus arrière. Et peut-être qu'il a eu un problème à l'accélération, il a dû lever un petit peu, et du coup, tout de suite, il s'est rapproché, Fernando, quoi. Et puis, il y a le Kers.
Après, c'est pareil, sur l'alternateur, bon, je parlais des stands, mais je pense que ça n'a pas vraiment beaucoup d'impact. Mais encore une fois, c'est une pièce qui est apportée, elle est que sur la voiture de Vettel, apparemment, puisque Weber avait l'ancien alternateur, celui de l'année dernière. Voilà, enfin, ils ont déjà perdu des points sur ça, moi, enfin, à un moment donné, tu perds des points, tu ne te remets pas à mettre un alternateur nouvelle génération. Voilà, l'ancien fait bien son boulot, bah tu gardes l'ancien quoi.
Ouais, c'est celui d'Ambrosio,
faire des essais.
Non, mais c'est aussi après que c'est problématique qu'on nous disait, parce que souviens-toi à Valence quand il y avait les problèmes d'alternateur, on nous a dit oui non mais c'est juste une mauvaise série, c'est un truc qui arrivera plus, et non, c'est arrivé de nouveau.
Ouais. Là celui d'Ambrosio, c'est ce qu'il disait là dans les comptes rendus que j'ai eu finalement. D'Ambrosio, il disait que le sien était presque cassé, et ils vont pouvoir le regarder justement pour savoir où est-ce qu'il en est et essayer de le reproduire en fait.
Et donc sinon, tu as des drive-through?
Ouais, je pense qu'on en a parlé, c'est le drive-through à Vettel, hein, et à tous ces pilotes en fait qui ne font pas attention aux autres en fait. C'est vraiment, je trouve ça vraiment triste. Rosberg à Abu Dhabi deux fois, pas à Abu Dhabi pardon, à Bahreïn.
Oh, c'est pareil.
Presque.
Ah, je dis c'est pareil, en termes de circuit. Hein.
Ouais, j'ai bien compris.
On a déjà eu les Roumains la semaine dernière, je voudrais pas avoir les Abu Dhabiens la semaine prochaine.
Non, j'avais bien compris comme tu veux le dire. Ouais, donc c'est un peu dommage, et bon, Grosjean, il paye en fait un petit peu pour toute sa carrière, je pense, même si elle est pas élevée, mais il en a fait quand même pas mal, mais c'est pas normal.
Et pour les autres aussi, je pense, qu'il paye aussi les autres.
Ouais, oui, et puis c'est dommage de amputer le championnat du monde, quoi. Même si c'était intéressant pour eux. Désolé Dino, hein, mais c'était intéressant de voir Alonso un peu plus près des autres, on va dire, en termes de championnat.
Ah non, mais moi j'étais le premier content.
Bah, non,
mais je dois le dire, voilà, moi je suis fan d'Alonso, mais la semaine dernière j'étais quand même content de me dire, ah voilà, ça va être intéressant, parce qu'on pourra pas dire qu'il a gagné parce qu'il était épicier, voilà, il va être obligé de se sortir les doigts du cul, et bon bah il a été obligé de se les sortir ce week-end, c'est bien.
Oh oui, mais maintenant il va pouvoir de nouveau faire l'épicier.
Oui, oui.
Donc voilà mon drive-through, je sais pas si vous en avez.
Est-ce que tu en as, Chidi? Moi j'en ai un tout petit.
Oui, moi aussi j'en ai un petit.
Ce sera à l'encontre de Lewis Hamilton. Parce que voilà, on sent vraiment le climat délétère un peu autour de cette équipe. Et je trouve qu'il y a eu une question ce week-end lors de la conférence de presse, je crois que c'est samedi, où on a demandé donc à Button comment ça allait se passer. Parce que l'année prochaine, lui, Lewis, serait plus coéquipier. Donc il pouvait maintenant, grosso modo, se battre comme des chiffonniers. Et Button a sauvé le coup, il a été très élégant en disant « Ah bon, je change d'écurie, je ne savais pas. » Voilà, quelque chose vraiment de très classe, la classe de Button. Ouais, ouais. Et derrière, tu as quand même Lewis Hamilton qui, dans le journal espagnol El País, bon, il faut quand même retenir que c'est un journal espagnol et que ça n'est peut-être pas non plus anodin, ces déclarations, mais en réaction à des déclarations de Martin Whitmarsh, où il avait dit après Spa que les pilotes, Button et Hamilton, avaient appris l'un de l'autre, en réaction de ça, Hamilton a déclaré « Non, mais moi, j'ai rien appris de Button. » J'ai appris d'Alonso, mais j'ai rien appris de
Button. Ça fait plaisir.
Voilà, c'est un coup bas, c'est un peu gratuit. Là, pour le coup, en termes de communication, c'est pas beau joueur, quoi. C'est, même si effectivement, peut-être qu'il a plus appris, et je comprends, peut-être qu'il a plus appris à côté d'Alonso parce que c'était sa première année et compagnie. Mais le dire comme ça, surtout une semaine après ce qu'il s'est passé à Spa, je trouve que ça manque un peu d'élégance, un peu de classe, alors que justement en face, il y a un mec qui est très classe dans ses déclarations. déclaration qui, même quand dit qu'il a pas apprécié, mais il reste quand même malgré tout très classe dans ses déclarations par rapport à Lewis. Il cherche pas à le tacler. Voilà, j'ai pas apprécié ses déclarations, je vais pas m'attarder là-dessus. Là, voilà, ça donne un peu, en termes d'image, ça donne un peu une image de bad boy et compagnie, et ça lui rend pas service en termes de communication. Voilà, je sais pas ce qu'il cherche à avoir en disant ça.
Quoi. Ouais, en plus, sur le podium, il montre la partie rouge de son casque.
Oui, j'ai eu peur. Oui. Oh là là, j'ai vu ça, je fais, oh non, il y a un message.
Non, il était pas celui du Milan, là, il était écrit clairement, je veux être chez Ferrari, c'est ça que ça veut dire, hein. Enfin, c'est comme ça que moi je
l'ai. Ah oui, non, mais surtout que derrière, dans le communiqué, il dit, j'adore l'Italie, j'adore les gens, compagnie, j'ai ah, c'est merde, ah, ah, ah Lewis, ah.
Et le mec Fernando a mis un veto, normalement, à ce qui paraît.
Oui, oui, bah oui. Mais tu crois sincèrement qu'ils vont refuser Hamilton? Non, mais... je sais pas. Moi, je te dis sincèrement, je suis Ferrari, et c'est Hamilton qui frappe à ma porte. Même si Fernando est pas content, je vais venir Hamilton.
C'est évident.
Je dis à Fernando, écoute, voilà, bon, Fernando, d'accord, mais ça, on en a besoin. Puis vaut mieux, à la limite, je pense pour Alonso, vaut peut-être mieux avoir à ses côtés un Hamilton, dont, voilà, qui pourra le concurrencer et le battre peut-être, mais qui aura la justification d'être un champion du monde, oui, plutôt que de se retrouver comme ça a été chez McLaren avec un Perez, qui lui torchera peut-être aussi la gueule, mais qui lui est pas champion du monde. En termes d'image, voilà, il y a peut-être quelque chose, quoi.
Puis tu sais, on dit oui, Alonso, Hamilton, bon. Mais après tout, est-ce que ça peut vraiment être pire que ce qui s'est passé chez McLaren? Non, mais c'est vrai qu'on a connu le pire, ça ne peut être que meilleur.
Ouais, bah ouais. Mais tu sais que maintenant je me mets à en rêver, c'est-à-dire que voilà, j'ai eu très peur quand il a montré. Fab, je dis à Fab, j'ai envoyé un message sur l'administrateur de FanF1 et Fab derrière dit non, il montre le drapeau de l'Italie. Mais je me demande si Fab il a pas lui aussi peur. Ah oh, non,
mais tu vas aller chez Ferrari. Il a peur, mais tu vas faire comme à chaque fois. Si jamais il y est vraiment, si ah non, il va mettre sauté, je vais faire ah oh, oui, alors je l'aimais pas, puis j'ai vu avec sa tenue rouge et là je suis devenu amoureux.
Ah mais c'est oui, je sais pas si tu te rappelles le grand prix de Chine l'an dernier, ils avaient avec Hugo Boss, ils avaient à chaque fois des combinaisons différentes, oui, le vendredi. Il avait une combinaison rouge et j'avais déjà dit que ça lui allait vachement bien et que ça me faisait peur parce que ça lui allait bien.
Je me souviens de ça.
Mais oui, ça a été un peu ma frayeur du bouquin. Quand j'ai vu montrer de rouge, je fais, mais qu'est-ce que t'es en train de nous dire là, Lewis? Non,
en plus,
non.
On est à Monza, on sait qu'il y a des annonces parfois à Monza.
Souvent, oui.
Montre de gris, bien. Montre, t'as pas du gris sur ton casque, s'il te plaît.
Bon, il y a une place en tout cas de libre chez McLaren, très probablement, hein, ça c'est sûr.
Peut-être bien.
Ça se sent. Pour que même Ron Dennis dise dans les médias, c'est limite, il implore dans les médias Hamilton de rester. Voilà, c'est quand même le mec qui, la communication de McLaren depuis longtemps, c'est dire non, mais c'est qu'une formalité, on va signer et compagnie. Là, il sent que ça signe pas, que Hamilton s'énerve.
Et puis on arrive à la fin de la saison, enfin, je veux dire, le temps passe.
Et là, tu sens qu'aujourd'hui, tu sens que McLaren, ils essayent de tout faire pour retenir Hamilton. Et ça serait peut-être même pas étonnant qu'ils demandent même à Jenson Button de travailler pour Lewis, juste pour retenir Lewis. C'est voilà, on les sent vraiment aujourd'hui vraiment à marcher sur des œufs avec ce pilote, parce qu'ils ont peur de le perdre. Enfin, même Lewis, je crois qu'il a fait une interview là hier ou aujourd'hui en disant non mais de toute façon les trophées ils ont jamais importé.
Ah, c'est nouveau.
On se rappelle l'histoire des trophées. Donc, grosso modo, il est quand même un petit peu en train de larguer les amarres de McLaren, quoi. Dans les déclarations, il y a de plus en plus de signes qui laissent à penser que ce garçon veut partir de chez McLaren pour aller où apparemment il nous envoie des messages subliminaux sur son casque.
Mais honnêtement, Button, il faut qu'il le roule pour Hamilton, hein. C'est triste à dire, mais il y a 40 points d'écart, hein.
Là oui, c'est à dire que Alonso est inquiet parce que il y a les deux pilotes et compagnie, que la McLaren tourne bien, enfin voilà, depuis trois courses ils ont visiblement trouvé un truc, mais c'est vrai que s'ils sont encore tous les deux à se battre pour le titre, voilà, ils vont potentiellement se prendre des points mutuellement. L'intérêt de McLaren et d'Hamilton, ça serait que même s'il est encore très proche au championnat, Button n'est pas foutu pour lui, mais ça serait quand même
c'est foutu, il a 78 points d'écart avec Alonso, pour lui c'est foutu.
Oui, non, mais c'est pas par rapport à Alonso qu'il faut regarder l'écart, c'est par rapport à Hamilton. Il est qu'à 30 et quelques points, donc c'est suffit, on l'a vu la dernière fois, il suffit d'un mauvais Grand Prix, il revient à 15 points, tu peux pas demander à un mec qui est à 15 points de s'effacer devant le mec qui est juste 15 points devant, et le mec il va te dire, mais attends, il reste 100 points à nous partager, j'ai 15 points de retard,
j'ai ma chance.
C'est pas Massa, quoi, Massa il a 132 points de retard, bon, à l'évite, t'as même plus besoin de lui demander, quoi, le mec il se garde.
Il reste que cette course, hein. Il reste que cette course.
Que cette course.
C'est pas beaucoup, hein. Je pense que McLaren n'est pas loin d'être en tête du championnat des constructeurs.
Ils sont à 20 points, ils sont remontés fort.
Oui. Ouais.
Ils auraient pu remonter plus fort. Mais...
Ils ont fait 0.
Ils auraient pu faire 43 en McLaren. En ils auraient pu faire 43.
Là, je pense qu'ils peuvent jouer le titre en championnat. Le titre de l'équipe. Mais ils peuvent aussi jouer le titre pilote s'ils décident de faire rouler Button pour Hamilton. Mais honnêtement, je crois qu'Hamilton, il n'a pas besoin de ça parce qu'il a, la vitesse en qualification. Que n'a pas Button, donc de toute façon il va forcément être mis en course si justement il se motive pour montrer à cet imbécile d'équipe McLaren qu'il déteste visiblement que c'est lui qui aime la performance et pas Button quoi.
Mais faut aussi se méfier pour lui du fait que peut-être que Button va plus que rouler pour lui, il va même plus rouler. Ça peut être le risque à un moment donné de Button qui dit bah écoute, tu veux être champion, moi de toute façon j'ai rien à faire, démerde-toi, et que Button fasse des 6 ou 7e place en laissant derrière, même si Hamilton fait des bons résultats, en étant tout le temps derrière Alonso, derrière Vettel ou les autres, ou Raikkonen, ça peut être aussi un risque quoi.
Bah, c'est là où on saura s'il y a une vraie histoire d'amitié entre ces deux-là.
Oui, mais il y en a jamais eu. C'est-à-dire, moi je me rappelle de déclaration l'an dernier où Button disait non, mais on n'est pas copains, on est coéquipiers, on s'entend bien, voilà. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute une espèce d'image qui a été créée autour de ce binôme qui est parfait, idéal, c'était le grand amour et compagnie. Sauf que quand on lisait un peu les déclarations, ni Button ni Hamilton, ils se respectent, ils sont des bons coéquipiers, mais c'était des collègues de boulot. Ça, c'est des collègues de boulot. Et là, on sent bien aujourd'hui que du fait d'avoir pas forcément une amitié réelle tous les deux, mais pas non amitié, là, on est passé à un stade où visiblement c'est hôtel du cul tourné pour les deux, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les deux se font un peu la gueule et les deux se font peut-être un petit peu la guerre en interne. Mmh. Voilà, je pense qu'on est dans deux images extrêmes. Faut pas s'étonner. Enfin, l'évolution de leur relation, elle est pas étonnante.
Après, c'est pas non plus l'orage entre les deux. En tout cas, rien de visible. Non,
là, on part sur des extrapolations.
Oui. C'est un peu mon drive-through. C'est un peu dans le prolongement, mais là, c'est sûr. Aussi autour de Hamilton et du Tweetgate, mais c'est plus sur comment ça a été présenté. Et moi, il y a un reportage qui, je sais pas, ça m'a surpris. C'est dans F1 à la une où ils ont parlé de l'affaire du tweet et tout ça. Mais ce qui m'a choqué, je sais pas si t'as eu la même impression, c'est que ils ont présenté ça comme étant uniquement un problème entre Lewis et Jenson, mais uniquement. Alors qu'à la base, c'est avant tout un problème entre Lewis et l'équipe. Après, en effet, on extrapole sur qu'est-ce que ça a comme influence entre Jenson et Lewis. Et eux, ils n'ont montré en fait que cet angle-là. Jamais, ils n'ont quasiment pas évoqué le fait que c'était avant tout un problème entre Lewis et l'équipe. Et ça m'a choqué. Je sais pas si t'as eu la même impression.
J'ai pas le gros souvenir de.
Oui, bon, c'est
fin de la vie.
D'accord, c'est pas le truc. Mais tu vois, ça me choque d'autant plus que je me dis qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui ne s'informent de ce qui se passe aux alentours, de ce qui tourne autour de la F1, que via cette émission-là. Donc oui. Je me dis toujours, faut quand même être super, faire super gaffe, les gars, dans ce que vous montrez dans cette émission-là, parce qu'il y a des gens, ce qu'ils voient autre des courses, c'est que dans cette émission-là. Et là, j'ai l'impression qu'ils, je sais pas, ils ont omis, ils ont pas vraiment montré réellement ce qui s'était passé. Et pourtant, ils devraient être aussi bien au courant que nous.
Mais je pense que justement, c'est aussi lié au fait que c'est le signe visible finalement, cette sorte d'ennemi, de brouille naissante entre les deux pilotes. Il faut quand même se rappeler que c'est quasiment pour les mêmes raisons que ça commence à dégénérer entre Alonso et Hamilton en 2007. Enfin, tout démarre grosso modo
à Monaco,
En Espagne. En Espagne, il y a la sortie d'Alonso. Ça commence déjà en interne un peu à bouillir. Puis il y a Monaco, où là, t'as Hamilton qui déclenche le feu en déclarant en conférence de presse que de toute façon il est le pilote numéro 2. Il déclenche une tempête, et là, j'ai un peu l'impression de revivre la même chose. Mmh. Beaucoup plus tard dans la saison, au terme d'une carrière et dans un contexte totalement différent, mais voilà, j'ai un peu l'impression de me dire, bon, y a quelque chose qui est en train de se casser entre ces deux hommes. Mmh. Mais aussi, je pense qu'on insiste beaucoup dessus aussi, parce qu'on nous a aussi beaucoup vendu l'image contraire. C'est-à-dire que quasiment la fusion entre les deux pilotes. Bah non. Sincèrement, je pense que ce que tu critiques sur les médias, je pense qu'on aurait pu le critiquer avant, parce qu'il y a plein de choses qu'on nous a, on a fait croire aux gens que c'était des super potes et qu'ils s'entendaient super bien. Bah oui, ils s'entendaient bien parce que c'était des mecs professionnels dans leur baquet, qu'il n'y avait pas forcément de brouille. Et voilà, il n'y avait pas de raison de s'opposer clairement. Voilà. Là, aujourd'hui, bah, ils sont que visiblement, il y a un contexte qui est favorable à l'émergence de potentielle rivalité interne.
Fernando doit rigoler.
Je crois que Fernando rigole.
Je parle pas seulement de
son... Il va pouvoir rigoler l'année prochaine.
Sans doute pas, non. Ah, surtout avec Massa.
Donc c'est tout pour les drive-thru, je crois. Et c'est tout pour les 3 heures de moi.
Je suis un peu pauvre, tu couperas si tu veux.
Ouais, tu couperas, je dis.
Allez, on va donc passer à la course. Mais avant la course, il y a les qualifs. Et cette semaine, une place de con qui se joue à une pompe à de la pression d'essence. Hein, cause officielle, c'est ce pauvre Nico Hülkenberg qui a pas fait tant, qui a même pas fait un petit temps en Q1.
Bah, il a pas fini la course non plus. Hein.
Non, mais bon.
Voilà, c'est.
Jean-Éric peut le remercier parce que s'il avait pas eu ce problème, ça aurait encore une fois sans doute été lui.
Ouais, on peut pas assurer comme ça. Il y a des chances, mais on peut pas. Non, ouais, il a commencé un tour en Q1 et il avait perdu la propulsion ou quoi, et on lui a dit arrête-toi, tu m'arrêtes pas. D'ailleurs, on remarquera qu'il y a des manières de dire arrête-toi plus ou moins pressantes. Hein. Parce que la manière
une façon pressante.
Qu'on vienne plus me dire aujourd'hui que Red Bull, c'est un peu le chou de. Que Sébastien, c'est un peu le chouchou de Red Bull. Quand même, la manière dont lui a parlé Roquelin, moi, sincèrement, il n'y a pas beaucoup de mecs qui me parlent comme ça. Hein. Arrête-toi, on t'a dit, arrête-toi. Calme-toi, je m'arrête si je veux.
Ils n'ont pas dit à Weber, par exemple.
Non, Weber, il s'est arrêté.
Il a coupé le moteur en arrivant sur la ligne.
Et donc en Q2, eh bien, qui est 17ème? C'est Jeff.
Vern. Ouais, Vern et D'Ambrosio 16.
Oui. Bon, c'est compliqué de parler de D'Ambrosio cette semaine, parce que c'est vrai que c'était compliqué en plus pour les Lotus. Hein, ça n'a pas été le meilleur week-end des Lotus, bien avoué.
Bah, des Renault en général, des moteurs Renault.
Hein. Oui, des moteurs Renault, ouais, exactement.
Parce que c'est comme l'année dernière, les moteurs Mercedes, c'est des avions, quoi. Mm.
Puis finalement, c'était un bon Grand Prix pour pas être là pour Grosjean. Finalement.
Ouais, il va revenir à Singapour.
Avec un beau départ.
Oui, en plus, le départ Singapour, oui.
Le départ Singapour, c'est généralement pas non plus le départ le plus soft.
Oui, je pense que là, c'est...
Faut qu'il parte en pôle, en fait, c'est ça le truc.
Ouais, puis après, il y a le Japon. Japon, ça va être encore chaud, ça, pour s'il fait pas la pôle.
Ouais.
Ouais.
Mais en fait, tous les départs vont être plutôt chauds.
À part peut-être à Abu Dhabi, bon...
Ouais.
Disons que ça
va dépendre des pneus de Vettel.
Oui, voilà. Sinon,
Vettel est toujours 3 dixièmes avec son coéquipier en gros en qualif.
Ah, en qualif,
il y a toujours 3 dixièmes, il n'arrive pas à les gratter. Quoi. Bon, c'est sa première saison, je pense qu'il a dû être rassuré sur le fait qu'on le gardait, même si on sait jamais avec Red Bull. Hein. Mais,
Bah, il a pour lui que en course, c'est lui qui semble meilleur que Ricciardo, donc ça s'équilibre. Et au final, c'est les résultats à la fin de la course qui comptent.
Ouais, ils ont. Enfin, c'est. Il a 8 points, Vern et Ricciardo 4. Bon.
Après, avec le niveau de Toro Rosso, ouais, faut pas non plus rêver.
C'est pas des gros scores non plus, quoi.
Ricciardo, d'ailleurs, qui fait 15, hein, juste devant D'Ambrosio. Senna 14, Perez 13, notez-le bien, Perez 13. Maldonado 12 et Marc Weber qui ne fait que 11.
Maldonado 12.
Alors, moi, je voudrais bien revenir sur Maldonado. Qu'est-ce qu'il a fait, le qualif?
Il a fait un truc.
Il sort d'Ascari. Alors, il y a un truc qu'il faudrait qu'on m'explique aussi. En Allemagne, Vettel s'est fait sanctionner. C'est pour ça qu'il y a des choses sur la FIA, la professionnalisation. Il faudrait qu'il y ait quelque chose, des vraies règles. Il se fait sanctionner Vettel parce qu'il est sorti en dehors de la piste à l'épingle d'Hockenheim. Ils sont tous sortis sur Ascari, en sortie d'Ascari, ils sont tous sortis pendant tous les tours du Grand Prix, pendant tous les tours du qualif, ils sont tous sortis à la sortie d'Ascari. Et là, il y a une ligne blanche continue, hein. Donc ils n'ont pas le droit de mettre les 4 roues dehors. Ils sont tous.
Alors voilà, je pense que. Voilà. C'est plutôt cet aspect-là. C'est...
Oui,
en Allemagne, attention, c'était un dépassement au-delà à l'extérieur de la piste qui est interdit. Voilà, ce qui est d'ailleurs très drôle. Parce
on lui, on lui enfin, reproche voilà. pas de sortir hein, en Allemagne, hein. ça peut arriver.
Voilà. On lui reproche de dépasser hors de la piste, d'en tirer un avantage.
Enfin,
Par contre, ce qui est certain, c'est que on se rappelle l'an dernier en Corée, justement, il avait court-circuité une chicane pour aller plus vite au stand en qualif et pour pouvoir refaire un tour ou je sais plus quoi. On avait clairement rappelé après la Corée que, attention, on entendait par la piste la distance qui se trouve entre les deux lignes blanches latérales et qu'il était interdit de mettre les cartes roues là. Et c'est vrai qu'il y en a certains, ce week-end, à la sortie de la variante Ascari, se sont pas gênés pour mettre les quatre roues derrière. Il y en a même certains qui l'ont payé un peu cher. Donc voilà,
Ils tirent avantage en sortant là.
Ah bah oui, tout à fait, ils en tirent avantage.
Et Maldonado, en fin de qualif, il avait fait son temps. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire mieux. Il sort large Il sort beaucoup plus large que d'habitude. Il met les quatre roues. On aurait même pu mettre une voiture encore à droite. Et il va tout droit. Il passe par l'herbe. La voiture zigzague comme a zigzagué celle de Fernando un peu plus loin dans Curva Grande. Et il lève pas. Et la voiture est prête à partir. Il est prêt à se prendre. Surtout qu'il y a un rail juste à côté là, qui est pas bon à prendre. Hein.
Bah, demande à Weber. Hein. Weber était très content de ne pas avoir tapé le rail.
Non, mais il est...
Je l'ai vu, et j'avais pas envie de le voir de plus près.
Weber, c'était le rail à gauche.
Ouais, oui. Il regarde bien sa voiture. Hein. Sur le coup, je dis, oulala, la Red Bull, il va plus en rester grand-chose.
Ouais, donc c'est... Maldonado, toujours bizarre. Il a des comportements en qualif qui... C'est assez curieux.
Plus décevant, j'ai trouvé Maldonado en qualif, enfin Williams globalement en qualif.
Oui. Et sur Weber, qui passe pas en Q3
Ouais. C'était pas surprenant, enfin, quand on regarde les essais, tout c'était pas. Il n'y a aucune surprise.
Alors en Q3, donc bien évidemment, c'est 10e place de Fernando Alonso, donc qui a brisé sa barre anti-roulis.
Et qui a fait une course d'équipe.
Oui, parce qu'il a aidé pour l'aspiration. Enfin, ouais. Massa, je crois que c'est Massa d'abord qui l'aide, et lui après a aidé Massa.
Bah, en fait, ils ont tout le week-end, ils se sont aidés, et en fait, lui, la barre anti-roulis, il savait qu'elle était elle était cassée dès la fin de Q2. Ils se sont quand même dit on va sortir en piste pour voir ce que ça donne, et ils en ont profité notamment pour mettre Massa dans l'aspiration Alonso pour que ça lui fasse gagner du temps. Bon, il se trouve que finalement Massa il a expliqué derrière qu'il a fait meilleur sur sa deuxième tentative où il était tout seul en piste et que finalement ça savait à rien. Et c'est vrai qu'il y a eu un débat ce week-end notamment entre McLaren et Ferrari pour savoir est-ce que c'était vraiment c'était un bon débat. Moi je trouve qu'on n'a pas suffisamment parlé à part Malbrand qui a dit que ça allait faire polémique parce que c'est une course d'équipe. Bah oui, mais en même temps les courses d'équipe sont pas interdites en Formule 1, voilà, puis surtout ça c'est du give and take, hein, c'est ce qu'on fait en NASCAR. Mais est-ce qu'il y avait vraiment un débat intéressant sur le fond, sur le fait que c'est Button qui a dit, peut-être qu'ils y gagnent en ligne droite, mais derrière il y a des endroits où vous êtes un peu plus surpris, où on panique. Donc Button il disait nous on l'a pas fait parce que c'est compliqué à faire, on n'est pas sûr du résultat. On peut aussi se demander s'ils l'ont pas fait parce qu'ils s'entendaient pas. Alors que Alonso et Massa c'était assez impressionnant, enfin ils l'ont fait de façon tout le week-end ils ont fait que ça.
Le WTCC ils font ça systématiquement pour les qualifs. À Monza, c'est une obligation. Mais Massa, il aurait pu porter réclamation parce que Fernando l'a gêné. Hein.
Oui. On risque de faire prendre des places de pénalité à Alonso. Moi, je pense qu'il est arrivé en disant dans le stand « Bon, les gars, Fernando, il m'a gêné, là. » Les gars, oh les gars, Fernando, imaginez, il y a quelqu'un, je vous parle, je suis devant vous là, Stefano.
Attention, Dino, parce que il avait, pendant la course, Andrea Stella s'est inquiété de la perte de la télémétrie sur la voiture de Massa et pas sur la voiture de Fernando.
Oui, mais en fait, c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une sorte de blackout dans le stand Ferrari.
Ils ont été aveugles d'un coup. Ouais, donc.
Ils ont tout perdu, même Fernando, c'est pour ça qu'il y avait Andrea Stella et compagnie qui étaient dans le stand. De toute façon, ça servait à rien qu'ils soient sur le muret, puisque sur le muret, il n'y avait plus de vidéo, il n'y avait plus de télémétrie. Et ils ont tout perdu. Ils ont même dit, à un moment donné, parce que c'était près des aérostands, ils ont dit, à un moment donné, on a dû utiliser un téléphone pour appeler Maranello. Les mecs sont tellement habitués à passer par des connexions. Comme le personnel est limité dans les stands et compagnie, je crois que c'est limité à 60 personnes sur un week-end ou un truc dans le genre. Bon, Ferrari, ils ont, comme la plupart des grosses équipes, ils ont un garage à l'usine, qui a là encore plus de télémétrie et compagnie, et qui notamment, ils font des simulations stratégiques. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y avait plus de communication avec Maranello, qui est pourtant pas très loin.
Imagine SM, les gars, attention, on va devoir utiliser un téléphone.
Putain, on capte pas.
falloir dire.
Non, mais sincèrement, pour avoir essayé un téléphone à Monza pendant un Grand Prix, c'est juste qu'ils aient réussi à joindre Maranello, c'est juste un miracle. Parce que moi, j'ai essayé de joindre des mecs qui étaient dans le paddock à Monza avec mon téléphone, ça n'a jamais marché. C'est juste pas possible.
Je peux te dire aussi, ne le fais pas non plus au Mans pendant les 24 heures, ça marche pas non plus.
Non, voilà, non. Non, tu fais comme tout le monde, tu tires ton propre câble téléphonique. Y'a rien de y a pas plus efficace.
En tout cas, Alonso, dixième, bon bah il a quand même réussi à sortir à la fin et se rapprocher, on va dire, mais il fait toujours que dixième. Mais...
Oui, avec une barre anti-roule IPT, il fait...
Non, mais ils ont changé des trucs, hein. Ils ont changé des trucs, c'est pas possible.
Ah non, ils ont dit que ils ont détecté donc un, alors que c'est un début de casse, enfin voilà, ils ont détecté qu'il y avait une pièce qui était cassée. Mm-hmm. Alors, on a dit la barre anti-roule, c'était plutôt l'environnement, ouais. Enfin voilà, ouais. Et qu'ils avaient pas le temps de le changer, donc ils sont quand même allés en piste. Alors, c'est pareil, ça m'étonne qu'ils soient allés en piste avec une barre anti-roule et qu'il arrive quand même à faire des temps qui sont à 3 ou 4 secondes de la pole.
Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'après, on est en porte fermée.
Mais après, ils l'ont changé, ça, oui. Pour
ouais, mais en partie fermée, tu peux pas changer.
Oui, tu peux.
Tu peux.
Avec l'accord de la FIA.
D'accord.
Quand t'as quelque chose qui est cassé sur ta voiture, sur le calife, ça, tu peux faire des modifications.
Ouais, c'est logique.
Par contre, t'as pas le droit de toucher au carburant.
Ah ouais, il faut toucher qu'à l'élément qui a été...
Et tu ne peux toucher qu'aux éléments que tu veux changer.
Ouais, ça semble logique, parce que même au niveau...
Ça a d'ailleurs été le bol d'Alonso ce week-end. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler qu'il a un vendredi noir.
Ah oui, non, mais
il s'arrête trois fois en piste. Problème de frein, problème de moteur. Bon, c'est le moteur du vendredi. Le moteur du vendredi, c'est toujours des vieux moteurs. La boîte qui casse. Et là, le bol. c'est la faille du règlement. C'est le truc du règlement. C'est que voilà, c'est que comme il a abandonné et que sa boîte a été cassée, mais que c'est à l'insu, non pas plein gré, voilà, que c'est parce que c'est de cause extérieure, on lui a autorisé, comme c'est autorisé à toute équipe, de changer d'une boîte gratuitement sans avoir de pénalité.
Il y a quelque chose que, au niveau de la sémantique, que je voudrais comprendre. En quoi les autres équipes qui cassent une boîte, c'est de la faute de l'équipe ou du pilote ?
Bah là, en fait, la boîte de Fernando Alonso a été endommagée dans l'accident, dans la concharge avec Grosjean.
C'est pas une casse qui est liée à l'usure de la boîte.
Voilà. D'accord. Donc, ils estiment que c'est indépendant de la volonté de Ferrari et que ça relève pas du niveau de fiabilité.
Vous notez les beaux euphémismes pour pas dire Romain Grosjean.
Oui.
Non, mais je savais pas. J'avais complètement occulté l'idée que c'était suite à c'était la voiture de Spa, quoi, avec la boîte de Spa.
Mmh. Voilà. Ouais, okay. Donc, quand un pilote est obligé de changer sa boîte, notamment, ça peut être d'autres pièces, ça peut être aussi le moteur. Mais quand un pilote est obligé de changer sa boîte en cours de cycle, parce qu'il faut que les boîtes tiennent 5 grands prix. Quand un pilote est obligé de changer sa boîte en cours de cycle, mais suite à un accident dont il n'est pas responsable, et donc il remet aucunement en cause la fiabilité de l'équipe, ils ont droit de mettre une nouvelle boîte et de changer, de recommencer sur un nouveau cycle de 5 courses. Sauf que là où est la ruse, c'est que dans le règlement, il est très clairement précisé que, en fait, la boîte, elle doit être mise pour l'événement. Et un événement en Formule 1, c'est le samedi et le vendredi. C'est pas le samedi et le dimanche, c'est pas le vendredi. Donc Ferrari, qu'est-ce qu'ils ont fait le vendredi ? C'est soit ils ont laissé la boîte un peu endommagée de Spa, je pense pas que ce soit ce scénario-là, soit ils ont repris l'une des deux boîtes qu'il avait utilisées avant, qui avait fait 5 Grands Prix, qui avait fait son temps, mais qui était encore vaillante, et ils l'ont mis sur la Ferrari, et ils ont clairement déclaré dans les soirs, ils ont dit non, mais de toute façon, on reculera pas, puisqu'on n'a pas encore monté la nouvelle boîte. Et en fait, les nouvelles boîtes ne sont comptabilisées par la FIA qu'au moment où elle prend la piste. Donc s'ils avaient mis la nouvelle boîte comme des couillons le vendredi matin, ils auraient été marrons. Bon, elle aurait peut-être pas cassé puisqu'elle était neuve.
Oui.
Mais si elle avait cassé, ils auraient eu l'air marrons. Parce que là, ils auraient pris une pénalité. Mais comme ils ont attendu le délai maximum légal, c'est-à-dire le samedi matin, voilà, ils avaient une vieille boîte. Cette vieille boîte, elle ne compte plus puisqu'elle a déjà fait ses 5 grands prix et que voilà, c'est le vendredi. Donc cette boîte-là, elle ne compte pas. Donc voilà, ils ont eu du bol, quoi. C'est dans leur malheur, ils ont eu du bol.
Non, mais je pense que c'est malin comme approche. Je pense que c'est assez malin. Je trouve ça très bien.
Ah bah c'est. C'est une bonne étude du règlement. Ça, c'est. J'ai presque pour vous dire, c'est un impératif professionnel que d'éplucher au maximum le règlement pour connaître cette faille.
Mais Red Bull avait fait pareil à Spa. Ils avaient déclaré que la boîte de Weber avait déjà montré des signes de faiblesse en Hongrie. Donc dès la Hongrie, ils savaient qu'ils allaient devoir en changer. Mais en fait, ils l'ont changé que dans la nuit du vendredi au samedi. Comme ça, ça leur permet de gagner une journée de roulage. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont dit, on a continué avec l'ancienne boîte, ou peut-être avec une boîte qui avait déjà servi. Et donc du coup, on a mis la nouvelle boîte que le samedi matin, ce qui fait ils ont gagné tout le vendredi le roulage. Ils ont pris la pénalité parce que là il y avait pénalité puisque c'était un défaut de fiabilité de la voiture, mais ils ont réussi sur le nouveau cycle à gagner une journée. quand tu calcules, bah, une journée sur 15 journées au total que doit tenir la boîte, c'est pas mal.
Ouais. Sinon, on a donc Kobayashi qui fait 9,
ouais.
Kimi Raikkonen qui fait 8.
Bah, on est en moteur Renault, hein, c'est le meilleur Renault.
D'ailleurs, on remarquera qu'il n'y a que deux moteurs Renault en Q3. Hein.
Ouais,
parce que bon, donc Rosberg fait 7, et donc Vettel se retrouve quand même le meilleur moteur Renault en 6ème place, derrière Schumacher. Hein, derrière Paul Di Resta qui fait 4, et quand même, parce que ça c'est quand même un des événements quand même de cette qualif, la 3ème place de Felipe Massa, même si ça vient pas de moi, je l'ai entendu, mais c'est terrible, c'est que quand Felipe Massa fait 3, on parle beaucoup plus de la 10ème place de Fernando Alonso.
C'est, ouais, c'est dingue.
il fait une très belle qualif.
Il fait une belle qualif. Il n'est pas embêté par le commandateur, on va dire, Alonso, là, ou le Terminator, comme ils ont dit sur TF1. Schumacher qui fait une belle qualif. Il fait régulièrement de belles qualifs en ce moment. Là. Il est souvent devant Rosberg. Mmh. Hein. Je pense que c'est...
Mais cette saison, il est meilleur que Rosberg.
Ah oui, oui.
Oui.
Il concrétise moins, mais dans l'ensemble, moi, je trouve qu'il est meilleur que Rosberg.
Ouais, il est compétitif. Il ne prend pas de risques inutiles, par contre, comme ce qu'il faisait peut-être un peu plus avant. Je pense qu'il est plus... Il a un bon pilote. Moi, je trouverais... Bon, s'il part à la fin de l'année, ce serait pas choquant. S'il reste, ce serait pas plus choquant, en fait.
Non, mais il faut qu'il parte. Il faut de la place pour Hamilton.
Ce serait dingue.
Et donc, une première ligne grise, hein, pour le plus grand malheur des tifosi. Jenson Button, deuxième. Et Lewis Hamilton, première place.
Bah, visiblement, l'aileron arrière, qui gagne 8 dixièmes à Spa, fait aussi gagner à Monza. Hein.
Oui. À partir du moment où s'ils ont les deux, quoique lorsqu'il s'était plaint, mais on lui avait équipé, hein, et ça avait pas marché, et on l'avait enlevé, et il s'était plaint.
Bah, quand on regardait sur la télémétrie, dans la montée de l'eau rouge, moi j'ai juste regardé cette partie-là, la montée de l'eau rouge, il était beaucoup moins rapide dès l'entrée en fait. Dès l'entrée de l'eau rouge, il était moins rapide. Donc il y avait quelque chose de bizarre en fait, je pense, sur sa voiture à Hamilton.
Bah, il avait pas l'aileron, c'est-à-dire qu'il l'avait mis plus tôt dans les essais, mais la décision a été prise de ne pas le garder pour Hamilton.
Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Par contre, il reste à 4, hein, quand même, bien.
Ouais,
bah, déjà, comme tu l'as dit, un moteur Mercedes, ça a aidé.
Ouais, mais bon.
Une voiture qui avait déjà bien marché en plus à Spa, ouais. Donc c'était pas surprenant non plus de les retrouver à Monza.
Oui.
Ouais, elle aurait sans doute pas mal à Suzuka aussi, je pense.
Hein. Ouais, faudra voir. Mm-hmm. Ouais, Suzuka, c'est pour Sauber.
Ce serait
pour. Oula, attention.
Pour Sauber ou pour Kobayashi?
C'est vrai que Perez, ça serait bien, mais en même temps, Kobayashi, ça serait tellement beau. C'est le premier japonais de la F1 qui gagne
au Japon, ouais, si ce scénario se passe. Mais alors, dès la course suivante, il y a 200 journalistes japonais qui suivent Kobayashi nuit et jour.
Oui, ce serait le premier.
C'est comme ça, les japonais. Hein.
Bah, ce sera un séisme là-bas, enfin, même si c'est pas très glorieux, enfin, c'est pas très drôle de dire ça comme ça, mais ce serait vraiment important. Premier vainqueur japonais, alors qu'ils adorent la F1 depuis des années. Hein.
Donc, alors, par rapport aux positions, hein, de la grille, donc il y a eu des pénalités puisque Maldonado a été rétrogradé de 10 places, mais en fait c'est pas 10 places, c'est 2 fois 5. 5 pour son départ anticipé et 5 pour son accrochage avec Glock, mais ça c'était à Spa. Di Resta, qui est 4ème, a été rétrogradé de 5 places pour changement de boîte. Tout le monde n'exploite pas les failles du règlement, hein. Il y en a, ils changent leur boîte, bah, ils se tapent 5 places. Et à noter que Hülkenberg, évidemment, même s'il a pas eu de temps, il a été autorisé à prendre le départ. Il est quand même souvent dans les 107%.
C'est normal quand même.
Oui. À noter que c'était la 23e pole position pour Lewis Hamilton, la 152e pour McLaren, la 88e pour Mercedes, à une belle moyenne de 248,242 km/h. Allez messieurs, on va passer à la course et au top 10. Et Dino, comme d'habitude, je vais te demander, quel pilote qui pourtant ont participé au Grand Prix, mais malheureusement ne feront pas partie du top 10?
Et je ne spoilerai pas le résultat, je dis.
Non.
Je vous dirai simplement que le vainqueur a marqué 1805 points.
Exactement.
Et que c'est toujours 1805 points de plus que Timo Glock, qui est 4ème avec, qui est 24ème avec 4ème avec 0 points.
4ème avec 0 points, oh waouh!
Qui est 24ème avec 0 points. Petrov est 23ème avec 2 petits points. Pedro de la Rosa 22ème avec 4 points. Pastor Maldonado 21ème avec 14 points. 19ème, Execo, Jean-Éric Vergne et Neran Kartikeyan, respectivement 16 points. Daniel Ricciardo est 18ème avec 25 points. En 16ème position, nous retrouvons Execo, Hülkenberg, Kovalainen, 44 points. En 15ème position, D'Ambrosio, 77 points. En 14ème, Weber, 85 points. Même pas, il est 13ème Execo avec Bruno Senna, 85 points. Kobayashi, 12ème avec 86 points. Et 11ème, Charles Pic, 116 points.
Beau score.
À noter que le top 10 est voilà, était voilà, il n'y a pas eu de véritablement de match.
Non.
Il y a un écart entre le 10e et le
11e. Oui, oui, il y a un... tout à fait.
Il y a du simple double.
Donc, carrément. Alors, Dino, tu as donné un point à Carty Client.
Oui, c'est un message à tous ceux qui ont donné des points à Carty Client plus tôt cette saison pour dire, voilà, là, c'est la première fois qu'il dépasse son coéquipier depuis 2005, je crois. Bah, voilà, là, c'est le moment où on peut lui donner un point.
C'est pas gentil, ça.
Le fait que... Et il a réussi un truc. Voilà, quand il fait quelque chose, on peut lui donner des points. Je me suis dit, voilà, il a fait quelque chose ce week-end, ah, je lui donne un point. Voilà. Sachant que ça sera pas passé.
Oui.
Ah, il lui en veut.
Non, mais voilà, enfin, voilà, là il fait quelque chose. Moi, je mets
tout l'exemple. Voilà.
Il a devancé son coéquipier pour la première fois de toute sa carrière. Voilà. Personne ne le remarque. Le mec il marque 16 points. Il en a marqué 309 à Valence. Pour on ne sait quelle raison, là, il marque que 16 points. Moi je dis, voilà, il méritait au moins un point.
Sinon, moi-même et Jackie, on a donné un point à D'Ambrosio.
Oui.
Alors, moi, c'est un point d'encouragement, personnellement. Parce que bon, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu.
On leur courage à faire mieux la preuve.
Bah, hey, tu sais quoi? On l'a pas vu, d'accord. Il se qualifie 15, non, il se qualifie 15, il finit 13, on d'accord.
Ça commence bien l'argumentaire.
Non mais, on est d'accord, s'il n'y avait pas eu les abandons, bon, ok. C'est quand même son meilleur résultat.
Oui. Non, puis enfin, voilà.
Non mais c'est vrai, c'est son meilleur résultat. Il a fait la course, je crois que c'est dès le 6e tour, il n'a plus de Kers. Voilà, dans les conditions dans lesquelles il est arrivé. Alors c'est sûr, s'il avait marqué des points, ça aurait été vraiment génial pour lui. Mais voilà, vu les circonstances, il a fait une bonne course.
Mais apparemment, il a impressionné. Et c'est vrai qu'il fait un bon week-end. Enfin, il a progressé. Il n'y avait rien à attendre de lui. Enfin, quand on fait les discussions sur Fan F1, où on dit ah, les points. Non, mais là, il peut rien faire. Quoi. Il n'a plus touché une F1 depuis quasiment un an. Puis encore, c'était une Marussia. Enfin, une Virgin.
Non, il a roulé au Mugello.
Oui, il a fait une journée au Mugello. Donc voilà, enfin, il n'a pas roulé le vendredi, il n'y avait pas de miracle à attendre. Il fait un bon week-end, voilà, un week-end honorable. Mais en même temps, après, j'ai envie de dire, il n'était pas non plus dans une situation de risque. C'est-à-dire que moi, j'en vois certains qui disent, ah ben lui, il s'est pas accroché et compagnie. Ouais, mais il partait 17e. Voilà, tu t'accroches moins en partant 16 ou 17e qu'en partant dans les 5 premiers entre 6 champions.
Non, je suis pas d'accord avec toi parce que tu pars 17e avec Grosjean, il va se dire, j'ai raté ma qualif, il faut absolument que je double plus pour justement rattraper ma qualif ratée. Parce que Grosjean, il a un esprit où il se dit. C'est au départ qu'il faut doubler le plus parce que c'est là que c'est le plus facile.
Oui, et parce qu'il est pas stressé, il est juste pas concentré.
Non, pour dire, moi j'étais content de. Bah, moi je suis un fan de la Belgique, j'habite en Bretagne mais j'adore les Belges. Et je trouve que c'est un pilote qui est calme, qui est vraiment assez posé. Donc je trouve que c'est intéressant ce qu'il a fait quand même pour Marussia l'année dernière. Il arrive dans une écurie cette année où il sait qu'il va pas beaucoup rouler. Il roule pas mal en simulateur apparemment. On lui dit, et c'est des premières fois, souvenez-vous, hein, quand Montagny était pilote numéro 3, il n'a jamais eu le droit de conduire la voiture à côté de Fernando. Hein. Donc là, c'est quand même une des premières fois où le troisième pilote a son rôle de troisième pilote, et ça, je trouve que c'est très bien. Et en plus, il fait une course embêtante, on va dire, il a des problèmes de fiabilité, c'est pas de son fait, mais il ramène la voiture, il fait la course du mieux qu'il peut. Je pense que si Grosjean se prend une autre pénalité, ce qui peut tout à fait être concevable, hein, Boullier va être conforté dans l'idée qu'il a un vrai pilote qui peut remplacer
oui, non, mais... au cas où, quoi. Moi, ce que je voulais dire, c'est que voilà, faut pas non plus faire la comparaison avec Grosjean, puisque la comparaison, elle est pas possible. Grosjean, c'est un mec qui a quand même eu des essais complets pour se préparer, qui, même s'il fait des conneries, ses performances, elles s'expliquent aussi parce qu'il roule et
ouais,
compagnie.
Ça, oui.
Et voilà, on peut pas comparer D'Ambrosio et dire D'Ambrosio, ah oui, il a pas eu d'accident. Oui, mais il est pas du tout dans les mêmes conditions. C'est-à-dire, chez Lotus, on lui a rien demandé d'autre que finalement d'être présent, de ramener la voiture à bon port et de faire ce qu'il pouvait. Et lui, personnellement, il n'avait rien d'autre à faire que de montrer, voilà, que de se montrer, faire sa pub. Ouais. Moi, je pense qu'il a très bien fait sa pub, qu'il va peut-être devenir une option pour certaines équipes sur le marché des transferts.
Ouais,
pourquoi pas Force India ou des équipes comme ça qui pourraient être intéressées s'il y a perdre leur pilote. Voilà, maintenant je pense que c'est périlleux. Moi j'en ai vu faire des comparatifs en disant ah là il fait mieux que Grosjean. Bah oui, s'il n'a pas d'accident, mais en même temps, voilà.
Non, je compare pas ça à Grosjean. Je dis qu'il c'était une situation difficile d'arriver.
Non, non, mais je c'est pas de toi que je parle. Je parle d'autres sur des forums. T'es dans les mêmes acabites que les déclarations qu'il y a eu la semaine dernière qui disaient que Grosjean fallait limite le virer de la F1 parce qu'il avait plus sa place et compagnie. Là, c'est encore un jugement qui est totalement irraisonné. C'est, il n'a pas du tout le même rôle. Voilà, même, il est en 15e position. Il y a des cartons en 15e position, effectivement. Mais il n'est pas non plus dans la même approche psychologique. Grosjean a sa place dans les mêmes conditions que lui a sa place. C'est pas certain qu'il fasse des conneries. Il aurait peut-être fait exactement comme d'Ambrosio. Il aurait suivi son chemin. Il aurait fait quelque chose de propre.
Regarde, il aurait pas fait 2009, de... quand il est arrivé. Il a tout cassé.
Pas à Valence. À Valence, il arrive à Valence. À Valence, il ne fait pas remarquer. Après, il prend peut-être confiance et compagnie, mais à Valence, de mémoire, il ne fait pas remarquer.
Non, c'est vrai. Mais c'est un peu quand même. C'était pas facile. Il y est arrivé. C'est pour ça que moi j'ai mis un point.
Sinon, on a tous les trois donné des points à Senna. J'ai donné 2 points, comme Dino. Jackie, tu as donné 6 points.
Ouais, parce que bah, vous avez vu dans mon top 10, j'en ai enlevé quelques gros.
J'ai pas regardé ton top 10. j'ai essayé de le transmettre à Chine.
Oui, mais il a pas. T'as bien fait d'ailleurs de me renvoyer le mail, parce que sinon je l'aurais jamais reçu.
Senna, je trouvais qu'il a été quand même percuté plusieurs fois, et je suis par qui sur la deuxième chicane là, où il s'est fait tamponner. Je suis pas mal.
Di Resta,
ouais.
Et c'est là où on a justifié l'absence de pénalité par le fait que, contrairement à Alonso et Vettel, là il se trouve qu'en fait c'est Senna qui est le premier à mettre les pieds hors piste, donc du coup il n'était pas vraiment à côté, voilà, et que Paul Di Resta n'avait pas à lui laisser la place. Voilà. C'est là où on arrive dans des explications de malade à cause de précision réglementaire et que ça fait des années des dépassements propres et que là, du coup, bah voilà, on en vient à. T'es obligé d'avoir les vidéos de langue sous différents angles pour pouvoir te dire ah oui, il était déjà dehors, donc c'est pas de la faute de Di Resta s'il va dehors. Oui, le problème non, c'est que ça, pour l'expliquer, il faut avoir les pièces.
Je pense que pour le règlement, un futur règlement, il serait peut-être intéressant de mettre au niveau de la roue, ou tu mets ça au niveau de l'aileron arrière, un capteur pour dire voilà, il y a une voiture ou il n'y a pas une voiture, quoi. Et puis qu'il y a un.
Mais c'est déjà le cas. Il n'y a pas de capteur, mais aujourd'hui, ils disent déjà, enfin, il y a des vidéos, tout pour contrôler. C'est la règle, elle est comme ça.
C'est-à-dire en temps réel, pour le pilote, avoir une lumière rouge qui s'affiche, tu n'as pas le droit de tourner à droite ou un truc comme ça. Bon, toi, tu roules un petit peu sur.
T'imagines les trucs de dingue, quoi. C'est les mecs vont faire attention aux lumières et compagnie.
Ils n'arrivent pas à voir dans les rétroviseurs.
Deux diodes, à la limite qu'on pourrait mettre justement, parce que, bon, ils ne voient pas dans les rétroviseurs, mais ils les voient, les rétroviseurs. Deux diodes dans les rétros, une de chaque côté, disant attention, quand une lumière en disant voilà, il y a un pilote à côté de l'autre.
Clignotant.
Presque ça.
Non, mais pour Grosjean, ce serait utile par exemple, parce qu'il n'arrive pas à. Au niveau du rétroviseur, d'apprécier la distance pour savoir si en face de la roue, de sa propre roue arrière, il y a la roue avant de l'autre. C'est difficile.
Mais ça fait partie justement des propositions. Enfin, il y a dans les réflexions sur le fait de manque de visibilité latérale, mais c'est là le problème, quoi. C'est qu'aujourd'hui, on aura beau chercher tous les trucs. C'est vrai qu'on pourrait mettre même des caméras à l'arrière qui seraient retransmises dans un petit écran sur le volant. Un système de diode aussi pourrait être intéressant, mais on en revient toujours au même problème, c'est qu'il n'y a pas de visibilité latérale, quoi, que les mecs ne se voient pas latéralement. C'est juste un non-sens que le mec dans sa voiture, il puisse pas regarder son angle mort. Enfin, chacun dans sa bagnole de tous les jours peut vérifier facilement l'angle mort. En Formule 1, ils peuvent pas. Alors, c'est vrai qu'il y a les règles de sécurité.
Sur certains rétroviseurs, il y a une lumière qui s'allume dans le rétroviseur pour dire qu'il y a quelqu'un dans l'angle mort.
Ouais,
oui. Ça existe dans les voitures de tous les jours. Ça n'a pas été amené. C'est une technologie qui n'a pas été amenée par la F1, mais qui pourrait redescendre à la F1 aussi. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant parce que tu vois, dans F1 2011, auquel toi tu joues, Dino, je ne sais pas si c'est Gigi qui joue.
Non, je l'ai, mais de là à dire que j'y joue.
Non, mais là, tu as vu comment c'était. C'est-à-dire qu'il y a une flèche qui. Tu ne vois pas dans les rétroviseurs, mais il y a une flèche qui te dit s'il y a une voiture à droite ou s'il y a une voiture à gauche.
Oui.
Et plus ou moins elle est avancée, plus ou moins tu sais si elle est près de toi, quoi. Un truc comme ça, ce serait pas si compliqué à installer. Hein.
Des radars de recul en F1. Non, mais c'est pas inintéressant, mais après, enfin, voilà, c'est qu'on arrive à une gestion. Enfin, bientôt, tu auras les mecs, dans ce cas-là, on va, pour la sécurité, on va complètement les recouvrir, ils sont dans la tôle, tu vois, ils sont dans la voiture, et ils sont comme dans Batman, quoi, ils auront tous les écrans, tous les trucs de contrôle, et ils piloteront juste avec des caméras. Enfin, voilà, c'est vrai, c'est une option, mais que voilà, on commence déjà, ça va beaucoup trop loin. Enfin, alors qu'il y a des solutions plus simples. Faut juste accepter que bah oui, il y a peut-être moins de sécurité à avoir sur les F1, quoi.
Bah ça, c'est pas un discours que j'entends, peut entendre.
Bah non mais on est bien d'accord.
Alors, on va passer au top 10. Alors, à la 10e place, eh bien, c'est un pilote qui n'a pas fini la course. Il a marqué 237 points, donc comme disait en effet, il y a eu de l'écart quand même avec la 11e place. Et lui, c'est son alternateur qui lui a posé problème, c'est Sébastien Vettel. Alors nous, on lui a pas donné de points.
Nous trois ?
Non, aucun de nous trois.
Ah bah.
Il fait pas une mauvaise course, il fait même plutôt une
bonne course. Bah non, il fait une bonne course en plus, oui.
Les Red Bull étaient plutôt pas mal, en début de course en tout cas. Après, je trouve qu'elles sont un peu effacées. Il y a la bagarre avec Alonso, plus ou moins réglo. Moi, j'ai pas forcément trop d'opinions sur l'accident. Il y a le règlement. Je trouve que le règlement a été bien appliqué. Après, on est aussi là pour regarder les pilotes se battre. C'est aussi ça, et qu'il faut aussi accepter parfois que dans une bagarre qui est peut-être qui a des petites conséquences comme ça, ça peut arriver. Je suis pas sur ce coup-là. Moi, je trouve la pénalité peut-être un peu sévère. Maintenant, le règlement il est là et faut l'appliquer. Mais bon,
je l'ai sorti parce que comme tu as dit dans une émission précédente, le podium du SAV, c'est aussi moyen de mettre le doigt sur des choses qu'on a vues et qui nous ont paru intéressantes, qui ne sont pas reflétées par le classement. Et pour moi, le fait que Vettel fasse vraiment une connerie pour empêcher Alonso de passer, alors qu'il y avait un gros écart de vitesse, hein, ça se voyait. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé un onboard de Vettel où on le voit regarder le rétro et j'ai pas pu voir savoir s'il avait vu avant et qu'il s'est décalé en voyant qu'il se décale, quoi.
Mais c'est très étonnant ce truc, parce que Alonso lui se plaint à la radio en disant qu'il a ralenti. Je pense que peut-être le plus pénalisable, le plus sanctionnable, c'est le fait qu'il ralentisse. C'est pas tant le fait qu'il laisse pas la place et qu'on est. C'est dans les débats, comme j'ai dit, c'est appliqué, le règlement est appliqué, c'est normal. Le règlement a été précisé, il fallait qu'il y ait sanction. Maintenant, sur l'histoire de laisser de la place, je suis toujours un peu circonspect. C'est surtout ce qui m'étonne, c'est le fait qu'ils ralentissent. Alors ça n'a pas visiblement été retenu par les commissaires, mais comme ils ont jugé très vite la décision, est-ce qu'ils ont pris le temps de regarder la télémétrie derrière pour voir s'il avait ralenti? C'est vrai qu'il y a quand même une sorte de ralentissement. Alors est-ce qu'il ralentit pour laisser passer Alonso? En tout cas, c'est pas le meilleur endroit pour le laisser passer, donc il n'y a pas de raison de ralentir et de se rabattre. Peut-être un problème de pneus, ou sa voiture qui fonctionne peut-être moins bien à ce moment-là, ou peut-être une action volontaire du pilote de ralentir. Enfin, cet endroit, c'est dangereux.
On va passer à la 9e place. Il a marqué 264 points. C'est un moteur Mercedes. C'est Paul Di Resta, auquel on a tous les trois donné 4 points.
Ouais, pourquoi ?
4 points, c'est vite, hein, c'est ça.
Je suis au classement, moi.
Bah, Di Resta, moi, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne qualif. Il n'a pas fait une course brillante.
Non, c'est pas celui qu'on a le plus vu, oui.
Il n'a pas fait une course brillante, mais il a fait une course. C'est bien d'être là. Il a le moteur Mercedes. Il est très efficace, même s'il consomme un peu pour les autres Grand Prix. C'est là où il est le plus efficace, je pense, à Monza. Il en tire parti. C'est bien d'en tirer parti, de montrer qu'il peut avoir sa place chez Mercedes si Papy décide de partir.
Non.
J'ai rien à rajouter.
Très bien. Moi non plus. Dans ce cas-là, passons directement à la 8e place. Et Dominique, c'est encore un moteur Mercedes. Il a marqué 351 points. On lui a tous les trois donné 8 points. C'est Nico Rosberg, parce qu'il n'y a pas eu que Schumi ce week-end.
Le mort vivant. Non, sincèrement, t'as l'impression qu'il est mort au début de la course et il te fait une fin de course.
Il galope. L'impression que j'ai eue pendant la course, c'est qu'il faisait le zigzag, si tu veux. Enfin, il descendait, il remontait dans le classement, si tu veux.
C'est les seuls en deux arrêts. Enfin, c'est quasiment les seuls en deux arrêts, quoi. Donc, c'est sûr, à la fin, ils finissent. Ils ont des deux hyper frais. Ils finissent quasiment plus forts que Perez. Ils sont super spectaculaires sur la fin. Mais bon, tu te dis, oui, mais il y a deux arrêts derrière, quoi. Donc,
pour moi, c'est une énigme cette année, parce que autant je m'attendais pas à ce qu'il gagne. C'était en Malaisie, c'est ça? Non, c'est en Chine. Malaisie, c'est Alonso. Autant je n'entendais pas ce qu'il gagne, même si je savais qu'il avait le potentiel pour le faire. Depuis qu'il a gagné, il n'y a plus grand-chose. Hein. On ne voit plus beaucoup. Il est éteint, presque.
Il fait un peu comme Maldonado. Parce que Maldonado, on le voit un peu plus, mais pour des mauvaises raisons. Ouais, lui, on ne le voit plus du tout.
Il n'a toujours pas marqué de points depuis Barcelone. Hein.
Ouais.
Et c'est un peu comme l'an dernier, c'est-à-dire que t'as trouvé le mot, Jackie, c'est il est éteint. Voilà, l'an dernier, il s'était peu à peu éteint sur la fin de saison. Et là, c'est vrai que depuis la Chine et surtout depuis Monaco, on a l'impression qu'il a senti que que c'était plus jouable. Et j'ai un peu l'impression qu'il baisse les bras, voilà, qu'il est.
Il attend la place de l'année prochaine.
Ouais, donc, je sais que si j'ai la chance de pouvoir l'interroger à Manicourt, je lui poserai la question parce que, pas aussi ouvertement, lui dire alors Nico, bon, t'es plus invisible que jamais. Mais c'est vrai que je trouve que là, sur les dernières courses, on le voit très peu et alors que pourtant il fait un très beau début de saison. Ouais, c'est assez.
Et paradoxalement, il a deux Schumacher. Alors que Schumacher, on a l'impression qu'il nous convainc plus.
Faudrait regarder les points qu'a perdu Schumacher. Je pense que c'est ça qu'il faut regarder.
Ouais, il en a perdu. Je pense qu'ils en ont perdu. Moi, je suis devant le classement. Là, il a perdu 4 courses, Rosberg. Il a 4-0. Et Schumacher en a 6.
Au début, il a perdu points, Schumacher.
Ouais, il a fait sur les 7 premières courses, il a fait 2 points.
Allez, on va passer à la 7ème place. Et c'est un moteur
Mercedes.
De toute façon, il n'y a que 2 moteurs Renault dans le top 10. Hein. Et bien, il n'y a que Jackie qui lui a donné 2 points. C'est Jenson Button. Qui a marqué 510.
Moi j'ai trouvé que Button avait fait quand même un. Bon, il a abandonné, et par rapport à d'autres qui ont abandonné, je trouvais qu'il avait fait une belle course en début de course, mais il arrivait à suivre à peu près le rythme d'Hamilton.
Bah, il aurait peut-être été le seul à tenir face à Perez, hein. Enfin, en tout cas, on peut se dire qu'il aurait sans doute.
Il y aurait eu match, je pense.
Ouais, il y aurait eu match, mais voilà, il aurait fait 3 quand même.
Disons qu'il n'avait pas de voiture. Voilà. On sait toujours pas pourquoi ce qu'il a eu, si c'était un arbre.
C'est un problème de pompe à carburant.
Oui.
Oh, ouais. C'est la chose bête, hein, on va dire. C'est pas de chance. McLaren n'est pas habitué, enfin on s'habitue pas, hein. C'est pareil pour Ferrari à ce qu'il y ait des pannes.
Généralement, quand ils s'arrêtent à cause de. Ils n'ont pas de carburant, c'est parce qu'ils voulaient le faire, mais là.
Là, on était loin de l'arrivée quand même.
Voilà, là c'était pas. On a vraiment essayé de jouer avec les quantités d'essence. Ah oui, là vous avez quand même beaucoup joué, les mecs. Il y a 50 kilos en moins dans la voiture.
Bah, on s'arrête 3 voitures de sécurité.
Oui, les mecs, ils ont engagé un nouveau stratège. Il vient à NASCAR, le mec. Le mec, il fait des stratégies en fonction des voitures de sécurité. Ouais, non, mais ça marche pas comme ça.
Au virage 1, que tout le monde a pris. D'habitude, il y en a toujours un qui coupe. Bon, c'est habitué qu'on est habitué à quand même à ce qu'il y ait des crashs au premier virage à Monza, quand même.
Oui.
Et souvent, ils sont obligés de couper. Là, ils ont tous pris au premier virage, mais
En même temps, on peut imaginer que dans le briefing d'avant-course qui est donné au pilote.
Cette fois-ci, ils en ont parlé.
Je pense qu'ils en ont parlé, vu ce qui s'est passé il y a une semaine.
Parce que il paraît qu'à Spa, ils ont préféré parler de leurs vacances que de parler. Selon Autosprint, ils ont parlé de tout, sauf du départ, qui est quand même pas non plus. Voilà, c'est vrai que c'est. On peut c'est comprendre qu'à Spa, tu parles pas du départ. C'est pas un circuit où le départ est périlleux. Ah, à Spa.
Si,
non,
si, parce que, je suis pas d'accord avec toi.
Non, mais c'est ironique. C'est ironique.
Voilà. C'est le pire premier virage du championnat, Spa. C'est.
Oui, voilà.
Ah non, il y a
Monaco
quand même.
Ouais.
Ouais, ça joue. C'est vrai que ça arrive aussi très rapidement et ça se ferme pas mal.
Ils ont demandé en conférence de presse ce week-end, je sais plus à quel pilote, je crois que je me demande si c'est pas Alonso, ils lui ont demandé « qu'est-ce que vous pensez si on faisait des départs lancés en Formule 1 ?» Il a dit « Mais vous savez, la seule chose que ça changerait, c'est qu'on arriverait beaucoup plus vite à la saison. » Et voilà. Et ça reste un départ, quoi. Donc,
ça, Fernando, ça c'est sûr, hein.
Ouais. À la 6ème place, et ben c'est l'autre moteur Renault. Hein. Vous vous rendez compte, il y a eu qu'un moteur Renault sur le top 10. Enfin, il y en a eu 2, mais dont l'un n'a pas fini la course.
Oui.
Donc le seul vrai moteur Renault qui a terminé la course et qui est dans le top 10 cette semaine, c'est Kimi Raikkonen, 704 points.
C'est pas cher payé, je trouve. En 6ème place, c'est ça ?
Ouais, 6ème place. Bah, c'est vrai que alors, moi et Dino, on lui a donné que 6 points, et toi, tu lui en as donné 12.
Ouais.
Moi, c'est vrai que j'ai été partagé. La Lotus n'était pas extraordinaire cette semaine.
Non, mais...
Là encore, bon, c'est le cas pour beaucoup. Il finit 5, je me dis que, ouais, dans la réalité, il aurait plutôt dû être 6 ou 7. On l'a plus souvent vu se faire dépasser que doubler d'autres voitures.
Oui, non,
mais moi, ça m'a étonné qu'il soit 5ème. Je me suis dit, c'est pas possible, comment il peut être 5ème. J'ai été surpris qu'il soit 5ème. Mais je pense que c'est en fait parce qu'il y a, les, y a peut-être les Red Bull qui l'ont dépassé, elles ont abandonné, donc il a gagné
des places. Voilà.
Je me rappelle, je me disais, attends, il y a un moment donné, il s'est fait doubler par des voitures. Je pensais que c'était les Mercedes à la fin. Et ça m'étonnait de le voir devant les deux
non,
Mercedes.
Non, mais je crois que les Mercedes aussi. Enfin bon, après, il y a eu les arrêts, quoi.
Moi, j'ai donné 12 points parce qu'en fait, il s'est fait dépasser par je sais plus qui à un moment sur la course, et aussitôt après, il l'a redépassé. Et c'est pour cette action-là, où en plus c'était propre, hein, il s'est laissé dépasser, il a laissé la place.
C'est comme c'est Pérez.
Ouais, et il a redépassé.
À la Roger.
Il a redépassé juste après il s'est fait redépasser par Pérez, mais ça prouve, ça me fait penser, vous souvenez tous quand Senna a doublé, Alési, il a fait sa carrière rien que sur ce dépassement-là, sur ce redépassement de Senna à Détroit. Peut-être pas, vous êtes trop jeune pour regarder le Grand Prix à ce moment-là.
Quand même.
Mais bon, vous l'avez tous vu cette image-là, et ça prouve la détermination du gars, et ça reste quand même un formidable compétiteur. Moi, je suis content que Raikkonen soit revenu cette année.
Il reste, malgré ses...
Il est propre.
Ça reste un des grands gagnants au championnat suite à cette course.
Oui. Ouais, moi je pense qu'il aura peut-être son mot à dire si. Bah, au Japon, surtout, je m'attends surtout à le voir au Japon. Les autres Grands Prix, j'arrive pas à établir si la Renault sera, la Lotus sera rapide dans les autres Grands Prix. Peut-être aux États-Unis, parce que ça a l'air d'être assez virage rapide quand même. On verra bien. Mais moi, je trouve que son état d'esprit est vraiment bien. Même si, apparemment, dans l'équipe, ça a l'air d'être un peu compliqué quand même de le gérer. Mais bon, il est pilote champion du monde, on va dire, pilote numéro 1. Il roule vite, il fait pas d'erreur, il marque des points. Je pense que c'est un bon recrutement. Hein. Donc, moi, c'est pour ça que je lui ai mis 12 points, parce qu'il a fait une belle course, malgré le moteur Renault. Mmh.
C'est là où c'est très drôle, le cas Hamilton, j'y reviens, c'est que comme tout le monde annonce qu'Hamilton va partir, et que, voilà, même quand on entend les questions en conférence de presse, c'est à qui Hamilton, il s'en va de chez McLaren. C'est rigolo, c'est que t'as les mecs qui sont un peu en situation contractuelle, qui pourraient intéresser McLaren, au premier rang desquels Kimi Raikkonen. Là, t'as le patron de Lotus qui a déclaré aujourd'hui, hier, qui a dit Kimi, il est avec nous l'année prochaine.
Il a un contrat, on
veut. Ouais, donc,
tu imagines bien le mec qui a enchaîné Kimi à une chaîne en disant tu signeras pas.
Ouais, mais Kimi, il a suffisamment de talent pour pouvoir imposer dans son contrat une clause de sortie si jamais on lui propose un contrat chez Ferrari, chez Mercedes ou chez
Il paraît que dans ce contrat, c'est quelque chose qui était stipulé en début de saison, qu'il avait une clause de performance. Ouais. Il y avait une clause commune de performance, il fallait que Kimi soit 8ème au championnat.
Bon, ça va.
Voilà. S'il était 8ème, il était obligé de rester avec Lotus. Voilà. Et s'il était moins de 8ème, il pouvait partir. Ce qui a arrangé les deux. C'est-à-dire que pouvait être soit parce que Lotus était mauvaise, soit parce que Kimi était pas bon. Voilà. Bon, là, il se trouve qu'apparemment, il va être dans les 8 premiers. Donc, c'est ce qu'a clairement fait comprendre, je crois que c'est Gérard Lopez, qui est le patron de Génie Capital, qui a dit non, mais Lotus, Kimi Raikkonen sera avec nous l'année prochaine, comme par hasard le week-end après Monza, où les rumeurs se font plus en plus inquiétantes sur la possibilité qu'un baquet se libère chez McLaren.
Juste pour information, ça va te faire rire, ça va vous faire rire. Grosjean est 8ème. Je ne sais pas s'il a une clause de performance, et le 9ème, c'est Perez.
Ah.
À 9 points seulement. Il pourrait sortir de chez Lotus.
Après, voilà, ça dépend si lui il a une clause de performance.
Ouais, mais il a total derrière.
Je pense que s'ils ont mis 8ème à Raikkonen, ils ont dû mettre 15ème à Grosjean.
C'est vraiment son pilote, hein, donc oui, ça doit pas être au niveau.
Non, je pense que c'était juste pour l'anecdote.
C'est même déjà des débuts de saison, enfin, mettre une clause de performance 8ème à Raikkonen, bon, c'est quasiment le contraire. Ils étaient sûrs que c'était renouvelé, quoi.
Ouais, non, mais ça dépend. Si ça marche pas, ça permet justement de s'en débarrasser rapidement.
Deux ans, faut se dire.
Quand même.
Il y a des jurisprudents, je vais pas dire que c'est pas du droit, mais il s'est passé Villeneuve qui est arrivé, Elfeld qui est arrivé, qui est revenu, je veux dire, Prost qui était revenu, qui avait toujours annoncé qu'il avait eu beaucoup de mal à revenir, Schumacher qui revient, qui se casse les dents aussi, c'était pas établi.
Ouais, mais il y a eu Loda, enfin voilà, enfin moi je pense quand même que Kimi Räikkönen, ben, moi quand je lis les commentaires, c'est sûr que Kimi Räikkönen il fait une saison absolument fantastique et il fait un super retour. Maintenant, ça peut pas non plus nous surprendre, enfin qui vraiment pensait au début de saison que Kimi Räikkönen allait faire que dalle, enfin c'est quand même un mec qui est resté dans la compétition, même si c'est pas la même compétition que la F1 qui est quand même resté dans la compétition. C'est un mec qui s'est adapté à tout, voilà, enfin donc voilà, si la seule inquiétude vraiment qu'on avait au début de saison, quand même se rappeler les émissions qu'on a dû faire au début de saison, puis regarder les commentaires sur les articles du début de saison et fin de saison dernière, le seul truc que les gens disaient, c'est s'il a une bonne voiture, on s'inquiète pas. Voilà, c'était même pas, il y avait quasiment même pas de question sur le fait de est-ce qu'il va être performant. C'est, on parlait davantage du fait qu'il a eu une bonne voiture plutôt que de savoir si est-ce que lui allait être bon ou mauvais. Pour les gens, c'était une évidence que Räikkönen allait être bon, et moi je fais partie de ceux qui pensaient que voilà, il allait pas casser la baraque. Je pense qu'il fait un meilleur retour que ce soit quoi je m'attendais, mais je pensais pas non plus, je me risquais pas à faire la comparaison avec Schumacher parce que voilà, enfin les conditions sont totalement différentes, voilà, enfin puis les personnalités aussi sont différentes quoi, puis l'âge est différent, voilà, moi la forme de Räikkönen ne me surprend pas autant que ça.
Moi j'avais peur de sa motivation.
Oui ça, voilà, c'est vrai. C'est davantage la motivation qui m'inquiétait plus que la performance. Enfin voilà, Kimi Räikkönen, on a toujours su qu'il serait performant. Voilà, c'est typiquement pas, faut quand même se rappeler que c'est quand même un mec qui est arrivé en Formule 1, il avait quoi, je crois 8 ou 10 courses dans les pattes en monoplace. Ouais, il a été performant dès le début.
Ouais, quoi,
oui, ah oui. Bah, tu vois. Donc voilà, c'est quand même, enfin c'est le mec, tu sais très bien que tu vas lui mettre une voiture dans les mains, il va être compétitif dès le début. Enfin voilà, il va être bon. Ça fait des années qu'on nous dit que Räikkönen est un talent à l'état brut. Il n'y a pas de raison non plus qu'il ait que ce talent soit enfui d'une quelconque manière. Là où on sait par exemple que par comparaison, Schumacher est quelqu'un qui a davantage besoin d'être préparé. Voilà, aujourd'hui je trouve qu'il est énorme Schumacher cette saison, mais il lui a fallu du temps pour se préparer, pour se remettre en place, et puis les conditions de son retour sont pas tout à fait les mêmes que Räikkönen. Donc voilà, c'est pas minimiser le retour de Räikkönen, mais c'est juste
la Lotus c'était pas une suite, enfin on s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi réussie que celle
je parle pas en termes de voiture, je parle
ouais, ça participe aussi à sa performance.
Non mais oui, ça participe aussi à sa performance, mais quand tu prends Schumacher, bah Schumacher il s'est arrêté quand même 3 ans sans compétition si ce n'est de la moto, là où Räikkönen a quand même fait du rallye, il a fait d'autres choses, donc il a continué à avoir un entraînement physique, voilà, le fait qu'il était entre guillemets prêt, qu'il y avait juste des repères à trouver, ce genre de choses, et lui-même était très confiant au début en disant bah oui, bah je vais juste faire quelques tours pour m'habituer aux pneus.
Il voilà, avait quelques kilos de plus en arrivant dans la saison quand même. Hein.
Oui,
c'est dans l'entretien, c'est du mineur. Voilà, il y a plusieurs dans l'histoire, mais encore récemment, il y a des pilotes qui devaient perdre 5 ou 6 kilos avant de revenir.
Ouais, on voyait bien qu'il était, je pense pas qu'il était en début de saison aussi entraîné qu'il l'est aujourd'hui. Mais là, il est sur une pente ascendante.
Ouais. Alors tu parlais de Schumacher, ça tombe bien. Il est génial pour me faire des transitions.
Ouais.
Hein, puisque c'est Schumacher qui...
Pour ce montage, je
c'est Schumacher qui finit 5e avec 755. Alors on lui a tous les 3 donné 10 points, donc 5e.
Ouais, moi j'ai trouvé qu'il avait fait une belle course. Dans le sens où il avait été plutôt régulier. Bon, il savait qu'il partait sur une stratégie à 2 arrêts, donc il a bien fini. Fallait qu'il finisse bien. Donc la voiture était encore en bon état à l'arrivée. Et donc il a pu profiter de ses pneus frais par rapport aux autres. Voilà.
Ouais, moi je pense que c'est ce qui l'a boosté, moi, par rapport à... Je l'ai mis devant Räikkönen par exemple, et je pense que après réflexion, après un peu plus d'analyse de la course, peut-être j'aurais peut-être dû le mettre derrière, mais voilà l'impression de la course, quoi, la stratégie qui lui permet d'être plus incisif. Voilà, sur le coup je me suis peut-être un peu laissé avoir par la stratégie, mais il fait aussi un très beau début de course, voilà, et puis il est devant Rosberg, quoi, enfin ça commence à devenir une petite habitude, et
après et bon, voilà, c'est vrai qu'il y a les 2 arrêts, vous pouvez peut-être pas forcément faire beaucoup mieux en course, en
tout cas. C'est le problème de la Mercedes. Hein. Ils ont un moteur puissant, mais ils n'ont pas réussi comme McLaren ou même Force India à contenir cette puissance et en trouvant des solutions mécaniques qui faisaient que ça glissait moins, mécanique ou aérodynamique, que ça glissait moins à l'arrière. Quoi.
Mais là, au moins, ils ont intégré dès le départ cette donne. Quoi. C'est que des fois, on a un peu l'impression avec Mercedes, c'est qu'ils se disent, on va tenter de faire un arrêt, puis après, on verra en course si ça marche ou pas. Alors que là, ben, c'est, à Spa, par exemple, c'était un peu le cas. On a un peu l'impression qu'ils sont partis sur la stratégie d'un arrêt sans savoir si ça allait le faire.
Doucement.
Et qu'à la fin, ils se sont dit, bon, bah, ça le fait plus, donc bah, c'est trop tard pour qu'on rentre. Bon, il y avait la justification, le fait qu'ils n'ont pas vraiment pu rouler le vendredi. Bon, là, ils sont partis, on a vraiment l'impression que dès le départ, ils sont partis plutôt en se disant, on va faire deux arrêts. Si jamais on voit qu'en course, on peut faire un arrêt, on fera un arrêt, mais on va faire deux arrêts. Je pense que c'est plutôt cette philosophie-là qu'ils essaient de prendre, Mercedes, c'est de partir peut-être sur une stratégie peut-être plus agressive, en s'offrant la possibilité, s'il faut, d'être un peu conservateur, si jamais ils voient que les pneus tiennent bien. C'est, ça arrive quasiment jamais avec Mercedes. Mais là, ils vont travailler hein, apparemment à Manicourt. Ils ont prévu pas mal de grosses nouveautés pour justement, alors notamment le c'est quasiment plus doux, c'est triple, quadruple, tel le DRS. Oui. Et puis ils vont adopter les échappements effet Coanda, donc type Sauber, McLaren, Ferrari, voilà, pour voir comment ça fonctionne, en espérant que ça bouffera un petit peu moins les gommes arrière.
Non mais ça, c'est intéressant l'histoire du double DRS qu'ils ont fait chez McLaren, parce que c'est ça que je comprends pas avec le double DRS que Renault veut mettre à Lotus. Eux, le leur, il enlève de l'appui sur l'avant. Donc en fait, la voiture elle reste équilibrée. Donc les Mercedes, moi j'ai noté ça en qualif, notamment sur Schumacher, quand il en sortie d'Ascari, au niveau du point de corde, le DRS était déjà ouvert. Au niveau du point de corde, ils étaient encore en train de tourner. Ce que les autres voitures ne sont pas capables de faire, parce que ils enlèvent de l'arrière, ils enlèvent de l'appui à l'arrière et gardent à l'avant. Donc la voiture est encore plus survireuse à ce moment-là. Au moment où tu enlèves, tu appuies sur le DRS. Alors que sur la Mercedes, comme tu enlèves de l'appui à l'avant, eh ben ça soulage l'avant et l'arrière. Du coup, la voiture reste équilibrée de la même manière. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce système-là. Et donc le double DRS, je trouve que est intéressant chez McLaren, parce que justement il permet d'ouvrir plus tôt. Et sur le double DRS de Lotus avec le truc à l'arrière, je sais pas comment ils vont le faire fonctionner.
On va passer à la quatrième place avec un pilote Ferrari. Qui... Oui ? Bah non, il était pas sur le podium. Non, il a failli, il a failli.
Ah, je l'ai pas mis, moi, dis donc.
Non, en effet, tu ne l'as pas mis.
J'ai oublié.
Moi, je lui ai donné quand même carrément 15. Dino, tu lui as donné 12. C'est Felipe Massa qui a récolté 1198 points, quand même.
Alors, moi, c'est une erreur. J'aurais dû lui mettre des points. C'est le top 10 qui fait 11 pilotes, moi.
Comme tout le monde. Très belle course, peut-être même.
Très belle course, ouais.
Depuis longtemps.
Ouais,
on avait commencé parfois, cette saison, on l'a parfois vu un peu mieux que d'habitude. Là, franchement, il a vraiment été convaincant. Puis alors, il fait ça à Monza en plus.
Ouais, moi je trouve. Plus
mais le problème, c'est qu'il se fait déplacer par Pérez à Monza.
Oui, mais bon.
Ouais, mais il fait une belle course à Monza, mais il y en a un qui en fait encore une meilleure et c'est son potentiel remplaçant. Donc.
Et moi, j'y crois pas à Pérez du tout chez Ferrari. Cette année, je pense pas que Fernando peut prendre le risque de mettre un chien fou à côté de lui.
Il a même prouvé qu'il était un super bon équipier. C'est tout bénef pour lui ce week-end.
Moi, je le trouve en plus, depuis quelques courses, 3-4 courses, je dirais qu'il est un peu. J'ai l'impression qu'il est un peu plus serein. Il a l'appui d'Alonso depuis quelques temps. Alonso le soutient Mordicus.
Bah, Alonso voulait Weber, il n'a pas eu Weber. Donc maintenant, c'est. Voilà,
c'est il veut Massa. Il regarde un peu le il veut garder Massa.
Alonso voulait
Weber. Qu'est-ce que je veux garder
Non, je ne suis pas certain qu'Alonso voulait Weber. Flavio voulait Weber.
Flavio.
Briatore.
Oui, mais Flavio Briatore, il a rien à dire.
Enfin, c'est l'agent de Weber et d'Alonso, hein.
Oui, enfin.
Oui, je pense que c'est il y a un petit peu de ça. Je suis pas certain que Weber était intéressé pour être à côté. Il sait très bien comment fonctionne Fernando.
Ah non, mais la question c'est pas savoir si Weber voulait être à côté d'Alonso. Je pense que Alonso, il était plutôt pour avoir Weber à ses côtés. Enfin, si on lui a posé la question, je pense qu'il n'aurait pas dit non. Ouais. La preuve, il y a eu des discussions.
Oui.
Et on sait qu'il y a des droits de veto. Enfin que voilà que d'abord on demande à Alonso s'il est d'accord. Ensuite, s'il est d'accord, on ouvre des discussions.
N'empêche, on sait qu'il y a eu des discussions avec Weber, on sait quasiment qu'il y a eu des discussions avec Button pas cette année, mais ça fait quand même beaucoup.
Hamilton, alors j'ai lu quelque chose, Hamilton a aussi parlé d'éventuelles discussions avec Ferrari.
Après, faut voir, hein, derrière le mot discussion, ça peut être plein de choses, hein, oui. Ça peut être des choses très avancées comme juste 2-3 mots.
Pour essayer, histoire de faire monter les prix. Hein.
Oui.
Mais là, il grille pour retourner chez, pour rester chez McLaren, il a trop brouillé son image.
Je sais pas.
Non, Massa, est-ce qu'il a sauvé sa place ou...
Moi, je...
Bah lui, dit non.
Moi, je pense qu'il a signé. Moi, je pense vraiment qu'il a signé. Il est trop serein pour. Il fonctionne à l'affect. Donc, c'est l'idée que j'en ai. En tout cas, je le connais pas.
Ou alors, hein. Il a signé chez quelqu'un d'autre. Il va faire le coup, tu sais. Et non, c'était pas vous qui me virez. C'est moi qui pars.
Il se serait défendu contre Alonso.
Oui. Ouais, moi, ce qui me fait penser qu'il a pas signé, c'est que s'il avait signé, je pense que Ferrari aurait sans doute fait une annonce en ce
oui.
moment.
Mmh.
Sachant que de toute façon, derrière, il y a rien d'autre. Je pense que Ferrari attend encore de voir le marché. Ils attendent Schumacher, ils attendent peut-être Hamilton, voir un peu parce que ces deux-là vont certainement débloquer des choses. Enfin voilà, si Hamilton s'en va, c'est une bombe atomique en plein milieu du marché. Qui sait ce qui peut arriver?
Ah, et puis en plus, ça fait, en imaginant que Massa est en danger, ça fait quand même vous rendez compte, un baquet Ferrari et un baquet McLaren de livres.
Ouais. Ça arrive pas,
ça arrive pas tous les ans.
Ce sera juste une bombe atomique.
Allez, on va passer au podium. Et en troisième place, eh bien, c'est l'autre pilote Ferrari. Même si je devrais pas dire l'autre pilote, comme si c'était un vulgaire pilote. Non, c'est Fernando Alonso.
C'est le pilote.
Je lui ai donné 12 points. Jackie, tu lui as donné 18 points. Mais Dino, bien évidemment, hein. Il ne pouvait donner que 25 points à Alonso.
C'est bien.
Qui a marqué 1496 points.
C'est bien noté, Dino, quand même. Hein.
Mais en fait, ça a été. J'ai fait le tiercé dans l'ordre, dans le désordre. Je ne suis même pas satisfait forcément de l'ordre de là.
Je pense qu'on a tous pareil. Hein. On s'est posé la question. D'accord. Savoir que...
En fait, moi, je suis parti un peu sur le même constat que la Belgique. C'est-à-dire qu'un peu comme en Belgique, où j'avais eu un pilote qui avait gagné la course en me laissant une impression de facilité, là, j'ai Hamilton qui en a une impression de facilité. Il y a deux autres pilotes derrière qui, pour moi, ont fait des courses exceptionnelles, Alonso et Pérez. Mais en même temps, voilà, j'avais du mal aussi à mettre Pérez devant Alonso, puis j'avais du mal à mettre Hamilton troisième parce que ça ne me semblait pas juste. Donc, il se trouve que je me suis retrouvé à mettre Alonso premier. Mais je pense, de toute façon, il n'y avait aucun des trois, peu importe l'ordre que j'aurais mis, il n'y avait aucun des trois qui me plaisait. Là, j'ai mis Alonso, mais si j'avais mis Hamilton ou Pérez devant, j'aurais toujours eu des arguments pour me dire, en fait, j'ai fait une connerie. Et là, j'ai des arguments pour me dire j'ai fait une connerie, mais en même temps j'ai pas fait une connerie, mais ouais, ça a été vraiment, je crois que c'est le pire top 10 pour le podium, c'est le pire top 10 de l'année pour moi, c'est...
pour moi aussi, mais bon, je suis plutôt satisfait de celui que j'ai choisi, en fait, parce que je pense que t'as dû faire pareil, Cindy, t'as dû
je vais vous dire un truc, on a tous les trois le même top 3, ça c'est logique,
mais dans des ordres différents.
Ouais, et vous savez quoi, c'est que aucun de nous n'a le top 3. Alors essayez de trouver.
Mais ce qui est très rigolo, c'est qu'on a sur le podium à Monza les trois mecs qui n'ont pas vu, qui n'ont pas fait plus de 100 mètres à Spa. Parce que Alonso, Hamilton, ils sont cartonnés et Pérez, il fait pas plus de 100 mètres non plus.
Ben moi j'ai mis c'est quoi le troisième là, c'est Alonso.
Alonso, oui.
Ouais. Moi j'ai estimé que Alonso il avait quand même fait, il était dixième en partant. Il fait un début de Grand Prix juste important dans le sens où, comme Grosjean qui pense que c'est au départ, lui, il a jugé que c'était pendant la première phase de course qu'il fallait qu'il fasse l'écart, qu'il double tout le monde. C'est ce qu'il a fait. Bon, il savait qu'il avait une voiture plus performante hein, parce que elle n'était pas à sa place. À Monza, on peut doubler. Ça aurait été au Hungaroring. Désolé, dis donc. Ça aurait été une autre affaire. Mais là, il se montre, et il fait vraiment une belle course, il double, il est vraiment agressif. À chaque, je crois qu'à chaque tour et à chaque ligne droite des stands, il double quelqu'un. Donc, il fait vraiment un beau travail. Ouais.
Oui, parce qu'on a parlé du dépassement sur Massa, mais il faut pas oublier aussi qu'à ce moment-là, Alonso, il remonte sur Massa. C'est pas Massa qui ralentit, non.
Voilà, moi, c'est ce que j'ai mis sur FanF1. Voilà, il n'est pas non plus arrivé de la dixième à la... Je crois qu'à ce moment, il passe Massa, il est troisième, et ils sont troisième et deuxième. Il n'est pas non plus arrivé comme par magie à la troisième place, quoi. Il a quand même fait des choses. Il fait un super départ, il fait un super premier virage, il fait des dépassements, même encore mieux que Vettel la semaine dernière, parce que Vettel, il faisait des dépassements, mais j'avais dit que c'était des dépassements un peu plus faciles dans la mesure où il n'y avait plus Hamilton et il n'y avait plus Alonso à dépasser. Bon, là, quand même, Alonso, il est quand même tombé sur des os, il est tombé sur Raikkonen, il est tombé sur Schumacher, il est tombé sur Vettel. Donc, voilà, moi, je trouve qu'il a fait un bon début de course. En plus, derrière, il est endommagé, sa voiture est endommagée l'incident avec Vettel. Il arrive quand même à finir la course. Et la stratégie d'équipe, pour moi, elle me révolte encore aucunement à mesure où quand on regarde le classement, voilà, c'est, t'as juste envie de te dire, oui, non, mais en même temps, oui, non. C'est même, dès le départ de la course, c'est très bien que la radio de Felipe, elle va grésiller. Même Alonso 10e, c'est que, voilà, il va y avoir du radio Maranello, ça va être obligé, quoi.
Et s'il avait envie de pas se faire doubler, il avait qu'à hausser le rythme, hein. Enfin, je veux dire, c'est oui, jeu, de toute façon.
Même sur la fin, on demande à Alonso de baisser le rythme parce que sa voiture est endommagée et qu'on a même peur pour qu'il voie pas l'arrivée. Et Massa derrière, il reste très gentiment derrière parce que il lui-même le dit derrière. Il dit aujourd'hui, c'est ce qu'on peut reconnaître à Massa, c'est que il a toujours, quand on lui a demandé, il a toujours été le coéquipier idéal. Et c'est ce qui fait que c'est quelqu'un qui est extrêmement respecté à Maranello. Oui. C'est que en 2006, plusieurs fois, il a été plus rapide que Schumacher. Je garde notamment le souvenir d'un Grand Prix d'Allemagne où il est beaucoup plus rapide que Schumacher et pourtant il reste gentiment derrière parce qu'il a conscience que Schumacher c'est le champion et que lui c'est le jeune qui arrive et qui est là d'apprendre. Et que son tour arrivera, ce que n'a jamais compris Barrichello. Chez Raikkonen, il a su faire ses preuves et en même temps mettre un peu son orgueil dans le mouchoir pour 2007, en sachant que Ferrari lui rendrait l'appareil. Ce qui est arrivé l'année suivante, il a demandé à Raikkonen de se battre pour lui, là où Raikkonen était peut-être un petit peu moins chaud. Et là, il a aussi conscience. Je pense pas que c'est un garçon à qui vraiment on demande et à qui on menace, comme on a pu le faire avec Barrichello, de dire si tu le fais pas, tu resteras pas chez nous. Je pense que c'est un mec qui a compris aussi que ses limites et que qu'aujourd'hui, tout ce qu'il a à faire depuis le début de saison, il dit je veux aider Fernando. Donc c'est déjà depuis le début de saison, le mec il a compris que il pouvait rien faire contre Alonso, quoi. Donc voilà, il l'a montré sous Ken. Moi je trouve qu'il a bien agi. C'est sûr qu'il y a eu des messages radio pour le lui rappeler, parce qu'on lui a quand même rappelé, mais voilà, il a fait
beaucoup de lui. C'est dépend la télé qui l'a rappelé, ça fait partie du...
Oui, voilà, c'est pour faire le show, ouais. Moi j'adore quand on lui dit bon alors tu vas passer sur tel réglage et compagnie, il reste un pneu et au fait Fernando est derrière toi, il va pas tarder à mettre son DRS. Tu te dis, mais pourquoi cette information? Elle n'est pas pertinente. Mais oui, elle est pertinente.
Alors messieurs, à la deuxième place, il a marqué 1765 points. Je dois dire qu'il a longtemps été premier, mais il s'est fait doubler sur la fin. Chose qui ne s'est pas passée en réalité, puisque Hamilton ne s'est pas fait doubler sur la fin, qu'il a gagné, mais il est deuxième du top 10. Alors moi, je l'ai mis premier, Dino, tu l'as mis deuxième, Jackie, tu l'as mis troisième.
Ouais, parce que je trouvais qu'Alonso était, et Perez, donc, que j'ai mis premier, était plus, avait fait une meilleure course en partant plus loin.
Oui.
Hamilton n'a eu qu'à gérer, en fait, les abandons qui se passaient derrière lui. Je pense qu'il avait encore beaucoup de perfos dessous le pied.
Il fait un week-end maîtrisé.
Il a géré. Bon, bah, il rattrape tout ce qu'il a perdu à Spa.
Dès le vendredi, il était là. Bon, le samedi, très bien. Voilà.
C'est ce qui me fait dire que je pense que les McLaren sont vraiment au-dessus du lot aujourd'hui. Je m'attends à ce que Ferrari fasse des cinquièmes places assez régulières jusqu'à la fin de la saison.
Voilà, pas en faire trop.
Non, mais je m'attends à ça. Hein. Je pense qu'ils ont fait un gros step de développement en début de saison, ce que les autres n'ont pas réussi à faire autant. Et maintenant, je pense qu'ils vont arriver à un plateau où ils vont plus pouvoir performer tant que ça. Il va plus y avoir tant de choses que ça à amener.
Ouais, mais je pense que Ferrari, ils ont peut-être aussi là sur les précédentes, sur les deux courses là, ils se sont pas non plus introduits, je pense, de grosses nouveautés. Il y a eu des petits raffinements et compagnie. Mais je pense qu'ils ont justement attendu Manicourt cette semaine pour se dire on va tester des trucs. Et je pense qu'il faudra voir comment ils vont être dans les prochaines courses. Parce que je pense qu'eux, ils ont vraiment fait un choix. Ça d'ailleurs, la décision de venir à Manicourt a été prise au courant de l'été. Et je pense que le fait qu'ils aillent à Manicourt est pas anodin. Et que il y aura peut-être pas mal de changements et de grosses évolutions sur la Ferrari introduite à Manicourt et à Singapour et compagnie.
Qui roule à Manicourt? Il y a Ferrari, Mercedes?
Ferrari, Force India, Mercedes. Ouais. Sur trois jours, chacune. Enfin, Mercedes, ils vont rouler sur... maintenant, j'ai une connerie. Mercedes vont rouler sur trois jours aussi.
Bah, je pense que c'est... ouais, mais effectivement, ils vont sûrement développer des choses, surtout que, a priori, il va faire beau. Mmh. Donc, mais bon, Manicourt, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est un circuit quand même...
Oui, mais après c'est surtout du roulage. Je pense que après c'est éviter plutôt que de je pense que dans leur calcul c'est plutôt que de mettre des innovations le vendredi matin ou vendredi après-midi, faire un peu ce qu'a fait Lotus et en sachant que en plus en Belgique il y avait des quand même enfin la pluie en Belgique vient toujours perturber le programme et que à Monza les écarts sont très serrés, qu'ils vont peut-être pas forcément tester, enfin trop se perdre dans le développement. Je pense qu'ils se sont dit on va peut-être justement profiter des essais de Manicourt, on aura trois jours pour collecter des données Monet et compagnie. Donc là, on pourra vraiment faire ce qu'on voudra. Et je pense que voilà, ils ont peut-être attendu d'apporter des grosses évolutions, des grosses nouveautés là pour Manico.
Ouais, moi je m'attends plutôt à ce que McLaren soit devant aujourd'hui. Hein. Ils ont un petit matelas, je pense. Après, je verrai bien.
Ouais, c'est clair. Après,
hein. Les Red Bulls sont.
Les trois courses sur trois circuits
oui,
différents.
Oui, viennent d'enchaîner trois victoires. Hein.
Ouais,
sur trois circuits différents en plus. Mm. Hein.
Ouais, donc ils ont fait un beau step en avant là. Et bon, là, je pense que les Vettel et Weber vont venir parce qu'on va retrouver des circuits, on va dire, où la puissance ne joue pas autant qu'à Monza. Et je pense que Alonso serait à peu près au même niveau que Vettel et Weber. Mais bon, il y a toujours les 5 dixièmes Alonso qu'il arrive à trouver dans sa motivation et dans le fait d'arriver à passer la voiture là où il veut qu'elle passe, à la vitesse où il veut qu'elle passe. Quoi.
Et puis pour Alonso, il y a, chez Red Bull, il n'y a pas de hiérarchie encore. Chez McLaren, il n'y a pas de hiérarchie encore.
Chez McLaren,
c'est pas certain.
Chez McLaren, c'est quand même plus marqué que chez Red Bull.
Oui, c'est plus marqué, mais c'est pas certain que McLaren se mette à vraiment définir un numéro 1, un numéro 2, s'ils savent que Lewis Hamilton a l'intention de se barrer l'année prochaine avec le numéro 1. Pour eux, c'est quand même, c'est dire à un pilote, tu favorises un mec pour que dès l'année prochaine, il se barre avec le titre de champion.
Ouais, mais pour l'année prochaine, je pense qu'ils préfèrent les millions de dollars des droits télé du numéro 1, de l'équipe numéro 1, que je pense qu'à choisir, ils ont...
C'est ce qui peut jouer en faveur d'Alonso. Mm. Puisque les pilotes McLaren sont libres de se battre.
Après, on faudra voir comment Grosjean va gérer ça. Non, sans être critique de trop, mais on va voir comment il va gérer aussi lui cette absence forcée et savoir si il va pouvoir rebondir et avoir une nouvelle approche notamment des départs.
Oui, mais en même temps, Hamilton a prouvé plusieurs reprises qu'il n'avait pas forcément besoin de Grosjean pour se mettre dans les ennuis. Hein,
depuis un certain temps, depuis qu'il a été champion du monde, il se met souvent dans les ennuis. C'est vrai.
C'est ce que je crois, c'est Paul Belmondo qui l'a dit dans Dimanche F1. Il dit la différence entre un Alonso et un Hamilton, c'est que Alonso, quand on regarde là, le dépassement sur Perez, il résiste pas, il laisse passer. Alors que Hamilton, il a l'instinct du guerrier, quoi. Il a l'instinct il a cette fougue qui fait qu'il aura quand même envie de défendre sa position et que donc du coup, il se mettra peut-être dans des situations un peu plus périlleuses.
Et donc à la première place, bien oui, il a marqué 1805 points. C'est Sergio Perez.
Ouais,
c'est pas la première fois en plus, je crois qu'il arrive premier.
Ben en Malaisie.
En Malaisie, ouais. Donc en effet, hein, tu l'avais mis premier, Jackie. Moi, je l'avais mis deuxième et Dino, tu l'avais mis troisième.
Par contre, tu as dit...
Stratégie.
Comme tu as dit tout à l'heure, quand on a présenté les qualifs, tu as dit, notez bien le temps en quelle place il est. Il était 13e.
Bah oui, voilà.
Oui, mais stratégie. Il part en pneu dur et finit en pneu tendre, là où les autres commencent en pneu tendre et finissent en pneu dur. Ça fait pas tout. Je suis pas en train de dire qu'il mérite tout que grâce à la stratégie, mais c'est quand même une constante. On l'a vu plusieurs fois cette saison. Alonso a gagné en partant de la 11e place. Voilà. Et moi, il se trouve que pourquoi je le mets 3e, c'est parce que Hamilton le met 3e, pour moi, c'est un non-sens tellement il domine la course et il est dans une aisance et dans un confort en course. Et dans la mesure aussi où Alonso, il conjugue à la fois des dépassements et puis il est sur la même stratégie que les autres pour partir deux places juste devant Perez. Et puis, il a une voiture aussi qui est endommagée sur la fin. Là où Perez, il a juste une excellente stratégie qui est menée brillamment à son terme. Mais il y a quand même moi je peux pas me retirer du fait qu'il y a la stratégie, quoi. C'est que cette stratégie, j'ai même posé la question pendant le live de Fan F1 des qualifs où j'ai dit, vous voyez les Red Bull pas terrible, j'ai dit, est-ce que ça serait pas plus avantageux pour les Red Bull de rester en Q2, d'avoir le choix des pneus pour espérer avec une bonne stratégie faire la différence, et on a vu que c'était possible.
Bah, il est parti avec quel pneu Weber?
Weber, je sais plus.
Je crois qu'il est parti en temps, hein. Je pense que quand même, il part en dur, il arrive à faire un bon départ. N'oubliez pas que Vettel, je sais pas si vous avez vu Button, quand il est parti, il a calé, je sais pas s'ils en ont parlé dans Dimanche F1, mais j'imagine très bien Montagny, s'il était là, lui dire c'est au moment où il a lâché la deuxième pédale d'embrayage que la voiture a ciré, et c'est là qu'il a perdu tout son temps. Button a fait un mauvais départ. Weber, il partait 11e. Dans mes notes, il a mis 12 tours pour rattraper le 11e place. 12 tours. C'est-à-dire qu'il a vraiment raté son départ. Ce qui n'a pas été le cas avec des pneus 13e, donc ça veut dire sur le côté propre quand même. Perez a réussi quand même
Mais là, on compare pas à Weber, là, Pérez. Hein? On compare à Hamilton et Alonso. Non, Weber, enfin, moi, je sais pas, personnellement, Weber, je vais pas donner de points. Je comprends ta comparaison, mais voilà, c'est juste, moi, dire que, en termes de, on salue le génie stratégique de Sauber et compagnie Ken, j'aimerais quand même rappeler que c'est grosso modo la stratégie qu'il faut faire, qu'il faut mettre en place quand tu pars de cette position-là. C'est une stratégie que Sauber utilise et réutilise, mais enfin, voilà, ils ont quasiment toutes les courses. Il y a au moins une voiture sur cette stratégie-là. Mmh. Voilà, que c'est les stratégies décalées, c'est très nombreux. Enfin, ça serait intéressant de faire une étude. Je pense que quand j'aurai le temps, je me pencherai là-dessus. De voir les mecs qui sont partis de l'arrière et en quel pneu ils sont partis, sur quelle stratégie, s'ils étaient décalés ou pas. Voir leur position à l'arrivée. Cette saison, c'est phénoménal. Enfin, comparativement aux autres, c'est phénoménal. Après, c'est pas réduit à la course de Pérez.
Il y avait quelqu'un entre les deux pneus. En performance.
En performance, en qualif, ils ont dit qu'il n'y avait pas beaucoup de différence. Ouais. Donc, ça, c'est la phrase que tout le monde retient. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de différence.
Ouais, pas beaucoup, ça fait 3 dixièmes.
Ils ont dit 1 ou 2 dixièmes. Mais.
Bah, tu fais ça sur 25 tours, 1 ou 2 dixièmes, ça fait des secondes. Hein.
Ouais, bah, c'est justement, c'est ce que je dis.
Bah oui, c'est important quand même.
De quoi ?
Le fait que l'écart, il a réussi à rouler, à doubler, pendant que, avec ses pneus durs, il a aussi à suivre le rythme de ceux qui avaient des pneus tendres, et qui pourtant lui mettaient 1 à 2 dixièmes à chaque tour, en performance pure, et il a réussi à durer plus longtemps, et à la fin, il a été très rapide, et a pu dépasser ceux qui étaient justement à ce moment-là en pneus durs, et profiter de ces pneus qui étaient.
Oui, mais ce qu'il faut faire attention, c'est que la différence en 1 ou 2 dixièmes dont parle généralement Paul Embury lors des qualifs, c'est la différence sur la performance d'un tour.
Oui.
Donc à charge de carburant égale, conditions de qualif et compagnie. Là, on est en plus, pour le coup, Sauber, ils n'ont pas beaucoup roulé, donc ils n'ont peut-être pas changé grand-chose, et finalement, je pense qu'ils avaient peut-être la bonne voiture, tout. Il y a quand même pas mal d'écuries qui disent qu'il y a des différences entre la qualif et la course, notamment c'est le comportement des pneus. On voit ça, par exemple, notamment chez Lotus.
En fin de course, et puis, la différence a été d'une seconde. Hein.
Était d'une seconde 6, mais ça dépend aussi plein de choses. Enfin, voilà, on parle d'une seconde 6, mais c'est par rapport à Alonso, par exemple. On sait aussi que Alonso n'est pas mécanique, donc c'était pas forcément une super référence. On sait aussi que Lewis Hamilton n'était pas non plus à fond. L'écart, on l'a vu vers la fin, quand Hamilton s'est mis à réagir, il était plus de 6 dixièmes, puis vers la fin, il a laissé un peu filer. Donc voilà, on retient l'écart d'une seconde 6. Si on analyse un peu la course, moi je dirais que l'écart, il est plutôt de 6 ou 7 dixièmes.
Ouais, ça aussi.
Mais c'est aussi parce que voilà, il y a aussi la différence de pneus. L'écart n'est peut-être pas forcément le même. C'est ce qu'on a vu cette saison, c'est que ces pneus Pirelli sont tellement dépendants des conditions dans lesquelles on les utilise que si tu tapes dans la bonne fenêtre, tu peux mettre 2, 3, 4, 5 dixièmes aux autres avec des pneus qui pourtant sont quasiment identiques à la base. Quoi. Parce que juste à taper la bonne fenêtre, que tu as les bons réglages, que tu as les bons trucs. Quoi.
Au classement, chez les pilotes, eh bien c'est toujours Fernando Alonso qui est devant avec 190 points, devant Raikkonen 149, Hamilton 143, Vettel 138. Weber est déjà à 111 points.
Fernando, rassure-toi, je prépare déjà le diplôme.
Au classement des équipes, alors là, c'est la folie. Lotus 251, Red Bull 249, McLaren 248 et Ferrari 234.
Moi, le diplôme tout bien.
Ah ouais, moi je m'en fous, moi il y a que le classement individuel qui m'intéresse.
Dans l'autre classement, donc les trois premiers sont les trois gros gagnants. Ce qui est paradoxal, on l'a dit, hein, c'est que ceux qui avaient marqué des points en Belgique n'en ont pas marqué en Italie et vice versa. Sauf Kimi, qui lui est bon, ne gagne pas, mais il est super super régulier. Alonso 179, Hamilton 142, Raikkonen 141, Vettel 140, Weber 132. Et Button est 6e mais déjà à 101 points. Chez les constructeurs, eh bien c'est Red Bull qui est toujours devant, hein, malgré le gros trou. 272 points devant McLaren 243, Ferrari 226, Lotus 217. On va passer au fait marquant.
Oh.
J'espère que vous avez apprécié nos intitulés.
J'ai même pas les chiffres. Donc, j'ai même pas été voir s'il y avait eu match.
Quel était, selon vous, le fait marquant du Grand Prix de Belgique 2012? Vous avez été 125 à voter. Merci de même, hein, merci à tous ceux qui ont voté pour le top 10. Est arrivé 3e, 12 votes, Maldonado, le Lucky Luke de la F1, 9,6%. Je crois que c'était Elder, ça. 18 votes, les 12 dépassements de Vettel, 14,4%. Et 95 votes. Grosjean, y a-t-il un pilote dans l'avion? 76%. Ça va, je visais le 80, mais bon, 76, c'est un beau score.
C'est une défaite, Shinji, c'est une défaite. Moi, ça me fait chier, je suis du deuxième.
Donc, Jackie, c'est à toi.
J'avais pas prévu l'effet marquant, mais je viens d'avoir l'idée. Donc, moi, je vais mettre sans gros gens. Alonso retrouve son écart de points au classement.
Bon, finalement, c'est pas si mal. Bon, ça, je vais parler de Pérez, hein, celui-là. quoi que c'est vrai qu'il y a l'effet. Mais je pense que s'il y a bien un truc qui va réduire l'effet Alonso, c'est l'effet Pérez.
Oui.
Speedy Pérez frappe encore.
Tu l'as mis troisième en plus.
Ah mais non mais j'ai jamais dit.
T'as aucune morale toi.
Ah bah non mais là, il en est plus dans la. Dans le top 10 je suis sérieux. Là je joue la gagne. Je fais mon Lewis, il faut, je marche sur l'équipe.
Ah là tu es pissier. Hein.
Carrément.
Moi je vais dire zéro pointé pour Red Bull.
On s'en va pas ça.
Toi tu vises la troisième place.
Ah mais bon, après vos choix, Hamilton je pense pas que ça marchera, donc c'est bien. Si on prend pas des noms de pilotes, il faut du sang, donc zéro pointé pour
voilà.
Red Bull.
Voilà. Hamilton il nous intéresse pas quand il donne pas sa télémétrie. Maintenant on veut sa télémétrie à chaque fois.
Voilà.
T'aurais pu mettre Hamilton gagne la course sans qu'on l'ait vu à la télévision.
Oui, non mais ça.
D'ailleurs j'en profite, comme je parle de la télémétrie d'Hamilton, j'en profite pour rendre un petit hommage à Enzo qui il y a quelques années avait fait un dessin justement dans la bagarre Hamilton-Alonso dans l'un de ses bouquins où il faisait ses dessins. Et il y avait notamment cette phrase qui était montre-moi ta télémétrie qui me faisait rire et j'y ai pensé immédiatement quand j'ai vu la télémétrie d'Hamilton. Voilà, c'est pensé au dessin d'Enzo. Donc si vous avez l'occasion, allez lire les archives de enzofr.com. Voilà, Enzo qui a été co-animateur de l'émission pendant un an et demi, voilà, et qui faisait des dessins qu'on fait plus, mais vous pouvez toujours les trouver sur internet. Et voilà, c'est l'occasion de redécouvrir un peu la F1 sous un œil taquin.
Donc on vous rappelle le sondage. Quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Italie 2012? Vous aurez le choix entre sans gros gens, Alonso retrouve son écart de points au classement, Speedy Pérez frappe encore, ou bien zéro pointé pour Red. Dino, on va passer au concours.
Oui.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Et rappelez-vous, le concours, c'était déjà la semaine dernière, voilà, ce n'était que la semaine dernière, et la question nous était posée par Globen, une question malicieuse qui mélangeait à la fois l'hymne italien et l'Italie,
oui.
Et c'était la suivante, combien de Grands Prix d'Italie ont été disputés depuis que l'Italie s'est officiellement dotée d'un hymne national? Et vous avez visiblement adoré cette question, puisque vous avez été incroyablement nombreux à y répondre.
Combien?
Zéro.
Eh ben bravo Germain.
Il n'y a eu qu'une réponse.
Il n'y a que Germain qui a répondu.
Pointu comme question. Hein.
Est-ce que au moins il a trouvé la bonne réponse?
Alors il a trouvé la bonne réponse. Alors j'ai plus le chiffre exact. Je crois qu'il a inclus le Grand Prix de cette année parce que oui de toute façon ça a été fait après les Grands Prix. Donc il avait inclus le Grand Prix de cette année. C'était 7 avec le Grand Prix de cette année.
Oui parce que j'avais regardé la réponse. Il y a une subtilité.
Voilà. Alors, en fait je vais vous donner la réponse de Germain qui nous dit il y a eu 61 Grands Prix de Formule 1 depuis que l'hymne italien a été adopté de facto, 62 Grands Prix automobiles au total, mais seulement 7 Grands Prix d'Italie depuis que l'hymne italien a été adopté de juré. Donc,
officiellement. Voilà. Parce que ça n'est arrivé qu'en 2005.
Ouais.
Même si, voilà, c'est plus de 60 ans que c'est l'hymne italien.
Bon, l'hymne italien, c'est l'hymne italien. Quoi.
Oui.
Et ça, c'est officiel. On peut plus le retirer.
C'est victoire par KO, là.
Wow. Bravo, Germain. Voilà, comme quoi vous y participez, même des fois, quand vous avez des questions dures.
Mais là, aussi, ça vaut là où ça me fait peur, c'est que je me dis, il n'y a pas de choix sur la question.
Non, mais sincèrement, quand j'ai vu la question, alors je me suis dit, tiens, je pensais que c'était pas la seule réponse. Et c'est seulement avant l'émission que je regarde et je me dis, ah, tiens, c'est le seul qui a répondu. Mais quand j'ai regardé les trucs, je me suis dit, tiens, je me rappelle plus trop des autres questions. Ça, c'est une question qui peut bien plaire à Shinji. Voilà, donc on va voir.
Et donc, quelle est la question de Germain?
Alors, Shinji, tu as le choix entre la question suivante et la question suivante.
Ouais.
Quel est le seul fabricant de chewing-gum, entre autres, à avoir sponsorisé une écurie de F1 par l'intermédiaire d'une marque de boisson, à savoir Schweppes? Et quelle a été cette équipe? Et donc, la deuxième question, Shinji.
Oui.
Quel est le seul fabricant de chewing-gum, entre autres, à avoir sponsorisé une écurie de F1 par l'intermédiaire d'une marque de boisson, à savoir Schweppes? Et quelle a été cette équipe? Alors, Shinji, la question est
tu. Je vais prendre celle sur chewing-gum, puisqu'on est à Singapour. Une
bravo,
question qui aura le goût de l'interdit.
Donc voilà pour le prochain Grand Prix, donc pour le Grand Prix de Singapour. Vous avez donc 15 jours, vous pouvez répondre à la question suivante, que je vous rappelle, puisqu'apparemment vous n'avez peut-être pas bien comprise. Quel est le seul fabricant de chewing-gum, entre autres, à avoir sponsorisé une écurie de F1 par l'intermédiaire d'une marque de boisson, à savoir Schweppes, et quelle a été cette équipe ?
Bon courage !
Pour répondre, vous avez donc 15 jours, l'adresse est concours@savf1.fr, voilà, et vous nous posez donc une question sur le Japon, puisque ce sera le Grand Prix Japon qui sera après. On va peut-être pas donner, je pense que là les thèmes alternatifs ça marche trop bien.
Ouais.
On va peut-être rester vague.
Japon, voilà, c'est très large, puis il y a de quoi faire, donc ça va.
Voilà, de toute façon c'est pour vous remettre le nucléaire comme l'an dernier, c'est pas la peine. Non voilà, donc bravo.
Si, j'ai d'autres thèmes, mais c'est pareil, il va y avoir deux personnes à répondre.
Oui, sincèrement, je crois qu'il vaut mieux avec Shinji ne pas mettre de thème subsidiaire
au Japon.
Donc voilà, c'est... Bravo Germain, tu gagnes un petit bout de papier pour le tirage au sort final de fin de saison du concours Top Pop Position.
Et donc tu disais, dans deux semaines, ça sera Singapour, qui sera de nuit, oui, mais à 14h, évidemment. Enfin, chez nous, 14h, parce que Singapour, il fait pas nuit à 14h, bien évidemment. Et ça sera un long Grand Prix, hein, c'est un des plus longs.
Oui, il est en limite. Hein.
Il est limite. Et si vous vous ennuyez, eh bien, le SAV est là, et surtout, Jackie est là.
Effectivement. J'ai réfléchi cet après-midi et je me suis dit, si quelqu'un ne veut pas regarder le Grand Prix de Singapour à 14h, donc le 23, et pourtant, si nous devons lui donner un conseil, donc ça veut dire qu'il écoute le SAV. Donc cette personne.
Oui, les gens sont maso, cherche pas.
C'est exactement le mot que je cherchais. Les gens sont maso. Ou alors, c'est qu'il en a marre. Alors, s'il veut pas regarder, c'est qu'il en a marre de voir Fernando en tête du championnat. Donc, ce que je propose à cette personne, si c'est quelqu'un qui en a marre de voir Fernando en tête du championnat, c'est de faire une prière à Saint Grosjean. C'est pas tombé, ça, hein. J'ai pas encore écouté sur Belgique, mais j'imagine que c'est pas tombé.
Non.
Alors, soit il en a marre de faire la sieste. Donc c'est parce que c'est aussi possible devant les Grands Prix de F1. Donc il faut faire la danse de la pluie, parce que le mouillé et la nuit, c'est plutôt inédit. Ça s'est jamais fait, on sait pas comment ça va se gérer.
Ouais, je crois qu'il y a eu des essais libres pluvieux, mais...
Oui, mais c'était pas non plus...
Mais jamais de course ou de séance officielle, quoi. Donc,
il y avait eu le Qatar, où il y avait eu de la pluie au Qatar. De la pluie à l'ouverture du Grand Prix, l'ouverture de la saison. Ouais. Et ils avaient annulé la course le jour. Hein. Donc ce serait possible, mais c'est pas la même technologie de lumière. Alors, s'il ne peut pas regarder le Grand Prix, s'il ne veut pas, c'est peut-être qu'il est en train de finir d'étudier la télémétrie de Lewis qu'il a fournie en Belgique, parce qu'il y a de quoi faire.
Oui.
Soit il pense que ça ne vaut pas le coup de regarder, parce que l'AF1 doit faire sa révolution, comme dit Luca Montezemolo. Il faut qu'il réfléchisse à ce qui est bon pour l'AF1. Vous avez vu les...
Le mec est quand même barré, hein. Il n'a pas envie de regarder le Grand Prix, mais il faut quand même qu'il réfléchisse.
Oui, parce qu'il ne veut pas regarder, mais c'est comme il est maso. Il faut quand même qu'il réfléchisse, parce qu'il veut regarder quand même, mais il veut regarder quand ça l'intéresse. Donc il faut que l'AF1 fasse sa révolution.
C'est pas con.
Autre...
C'est un bel angle sur l'ensemble de cette proposition, c'est un bel angle.
Il verra qu'il n'y en a pas que 7. Autre raison, c'est parce qu'il regarde l'intégrale du Grand Prix de Hungaroring. Toutes les saisons qu'il a téléchargées en DivX pour regarder et qu'il regarde ça. Et donc, il ne peut pas regarder un Grand Prix intéressant comme Singapour vu qu'il y a tous les Hungaroring à regarder.
C'est un super Sunday.
Soit c'est parce qu'il est écologiste et qu'il refuse philosophiquement cette dépense inutile de l'électricité, alors qu'un Grand Prix tôt le matin, c'est mieux. Souvenez-vous, les Grands Prix à 4h du matin en Australie. Moi, j'adorais me réveiller à cette heure-là. Je ne le dis pas de manière ironique, hein. J'adorais me réveiller à 4h du matin. Et c'est vrai qu'un Grand Prix de nuit, c'est joli, mais c'est quand même une dépense importante en termes d'électricité. Et pour l'image, c'est pas très bon aujourd'hui. Donc ça, c'est la sixième. La septième, soit c'est parce que c'est un sim racer. Alors, pour ceux qui ne savent pas, moi je suis aussi un sim racer. Je roule beaucoup sur les jeux vidéo de Formule 1 et d'autres d'ailleurs. Il préfère peut-être piloter soit sur F1 2012 qui va sortir le 21, même si c'est pas un vrai jeu de Formule 1, soit sur Project Car.
C'est pas une simu PC, c'est un jeu console.
Non, c'est, il est sorti sur PC.
Oui, mais c'est un jeu console.
Oui, oui, oui. Non, mais il y a d'autres jeux, il y a Air Factor, il y a...
Oui, qui sont des jeux typiquement PC, des simulations abouties qui philosophie PC.
Voilà. Donc, il essaye peut-être de rouler sur Singapour avec un vrai jeu pour pouvoir participer. Ou enfin, la huitième, la dernière, il est peut-être...
C'est la bonus track.
Hein ?
C'est la bonus track.
Ouais, ça, voilà. Tu ne coupes pas celle-là.
Non, c'est pas moi qui coupe alors.
Non, je dis ça, je dis. Soit il est en train de lire le dernier numéro de LiveSim, live-sim.com, où je suis rédacteur en chef, qu'il n'a pas, et il n'a pas vu le temps passer, et il a laissé passer 14 heures, et il a loupé le départ du Grand Prix. Voilà.
Et cette belle victoire de Fernando Alonso.
Parce que justement, on passe au prono et donc tu t'engages, tu dis ça sera Fernando Alonso.
Je dis plus rien, mon. Oui, non, oui, je pense que.
Non, mais j'espère que ce sera Fernando. Oui. Mais pour la beauté du championnat, il faudrait mieux pas que ça le soit. Enfin, je m'attends pas à ce, de toute façon, à ce que ce soit Alonso qui gagne.
Et ben ce sera Alonso juste pour t'emmerder.
Non, mais je m'attends à ce que ce soit Hamilton qui gagne.
Oh non, pour l'intérêt du championnat, non, faut pas que ce soit Hamilton.
Non, putain, Vettel, en plus, ça fait. On dirait pas comme ça, mais ça fait un bail qu'il a pas gagné.
Il est, imaginez-vous, pour le moment, il a gagné autant de courses que Marc Weber en 2011.
Oui, c'est rassurant pour lui.
Ça fait mal.
Ouais. Moi, je m'attends à ce que Grosjean fasse une grosse course à Singapour.
Ah, écoute, s'il peut déjà faire un bon.
Il a été bon à Monaco, il a sa sanction, il a des choses à se faire pardonner. Je pense qu'il va faire une très bonne qualif et il fera sûrement une bonne course. Mm. Là, à Spa, quand je l'ai vu 9e à côté de Maldonado, j'ai dit c'est pas possible, ils vont se cartonner. C'est ce que je me suis dit.
Eh non.
Pas avec Maldonado.
On arrive à la fin de cette émission, déjà.
Ouais. Alors il faut vous dire que exceptionnellement c'est Suzy qui va faire le montage de cette émission, qui a fait le montage de cette émission, et il faut dire Suzy que tu hérites d'une belle émission à monter.
Oui. Donc on va rappeler les adresses habituelles, rappeler que comme d'habitude il y a le répondeur pour le mag.
Oui, la semaine prochaine, répondeur@savf1.fr.
On rappelle que le SAV bien évidemment c'est sur iTunes, c'est sur Podcast France, où vous pouvez voter pour nous, parce que ça nous ferait plaisir. Donc 5 étoiles, vote, tout le team, hein, classique. Dino, au niveau de nos invités, où on en est ?
Alors, nous avons un invité pour Singapour et de mémoire pour la Corée, le Japon. Et on a un invité dans les placards pour la fin de saison. Donc, il reste encore 3 places de disponibles éventuellement. Peut-être même 4, mais pour la fin de saison.
Ce serait pas avant l'Inde, en tout cas.
Voilà, pas avant l'Inde. Donc voilà, si vous avez envie, contactez-nous sur contact@savf1.fr. Voilà, on vous donnera sans doute dans prochaines émissions un planning un peu plus précis et détaillé. Mais on n'est pas loin de faire une saison complète.
Déjà, si c'est l'Inde, ça fait déjà 16 sur 20. Hein.
Ouais.
Déjà, c'est pas mal du tout.
Inscrivez-vous, hein, ils sont vraiment très gentils.
Ouais, c'est vrai. Surtout Cindy.
Oui.
Bah, c'est sûr qu'ils ne coupent pas. Hein. Pas la tête de voir.
Laissez-moi avec mes problèmes, d'accord, hein. On rappelle, sur Twitter, il y a le hashtag SAVF1.
Même
quand on s'en sert, quand on n'oublie pas de s'en servir, oui, tout à fait. Mais on s'en sert, donc c'est bien. C'est à peu près tout.
Bah oui, on peut juste rappeler que l'AF1 sur Internet, c'est sur...
FanF1.com, parce que...
Et que le SAV de l'AF1, c'est...
Le Ritz des podcasts.
Ah, j'ai pas dit.
Bah vas-y, dis-le, il en remettra en montage.
Attends, qu'on le dise ensemble, tu dis.
Non, mais dis-le, il fera le mixeur.
Non. Donc, c'est le...
Ritz des podcasts.
Dommage, tu vois, tu vas devoir le mettre ensemble, monsieur.
Jackie, merci de nous avoir accompagnés.
Ah, merci de m'avoir invité.
Et merci, Jackie. Et vraiment, allez sur son magazine, hein, LiveSim. C'est live-sim.com.
Ouais, c'est ça. C'est le magazine sur la simulation des jeux de... Enfin, c'est tout sur tous les jeux de course en général.
Et on rappelle en effet que la démo de F1 2012 sort là cette semaine. Il y a quelques jours de décalage entre PC, Xbox et PS3. Parce qu'il n'y a pas que les PC, hein. Voilà.
Non, mais c'est des choix.
Shinji est en guerre.
Pourquoi il est en guerre?
Mais non. J'aime très bien le jeu PC.
Non, c'est un
aussi le jeu console. Je dis juste, il y a des jeux qui sont plus orientés console et d'autres qui sont plus orientés PC. Allez, ciao à tous. Et comme d'habitude, on vous laisse sur ces quelques mots là de poésie, de spiritualité. Je sais jamais comment définir. D'ailleurs,
on pourrait vexer un peuple.
Ah bon?
Ouais. Un peuple sympathique et qui adore les pâtes.
Ah.
Puisque pour finir cette émission, j'ai décidé de vous proposer un proverbe italien. Je pouvais pas faire autrement.
Ah ouais.
Hein, proverbe italien qui s'adresse à McLaren et à Hamilton. Voilà, sur un peu une réflexion sur le succès de McLaren et d'Hamilton. Bon, bien évidemment, comme les communications radio de Ferrari, vous n'allez sans doute pas comprendre grand chose à ce que je vais dire puisque c'est d'italien. Ou alors faut qu'on vous traduise. Donc voilà. Mais bon, ça peut toujours être utile. Alors, avant de vous laisser au terme de cette émission magnifiquement montée par Shinji, bravo Shinji, je tiens à te dire tout de suite d'avance, bravo.
Toi, tu passes, ça se trouve, ça va être horrible.
Et donc, le proverbe de cette semaine, c'est « Agosto matura et settembre vendem ».